Bon midi et bon lundi! C'est l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. Un gros merci à ma collègue Pascale CV d'avoir assuré la relève vendredi midi.
Merci à toi pour la confiance.
Ça fait plaisir. Voyons donc, je suis en pleine confiance. Merci à Mathias d'avoir été là également pour l'émission On en jase. Donc aujourd'hui, lundi 8 décembre, c'est l'équipe complète. Jeff Fortin, Pascale CV, Antonine Niacarini pour le caucus. Fini les vacances à Davelioville.
Les vacances, oui. Un tournoi de hockey avec ces jeunes, ça doit être plus du travail. Un deuxième chiffre, non?
Oui, exactement. Mais rendu midget comme ils sont, ils s'organisent pas mal. Il était bien drôle. Il y avait une salle d'entraînement à l'aréna. Ils ont réussi à se faufiler en convainquant quelqu'un qui s'entraîne de les laisser rentrer. Ils sont allés faire leur warm-up, là, ces tapis roulants.
OK, c'est du sérieux,
là. Ah, non, mais je sais pas.
Ça a-tu payé, ça, sérieux-là?
Ça a payé. On a gagné 3-0, ce match-là.
Ce match-là.
C'est l'enfer. Ouais, exactement. On a perdu le premier match du jeu, on a gagné le deuxième 3-0. Et malheureusement, on s'est incliné en quart de finale contre les champions du tournoi. Ah, mais bref.
Félicitations.
Vraiment. On a eu une superbe fin de semaine.
Donc, à Davelioville.
À Davelioville. Il n'y a pas grand-chose à faire à Davelioville. On est allé manger à Victoriaville pour passer le temps au Saint-Hubert. Mais c'est le fun. Tu apprends à connaître les parents. Tu apprends à connaître les histoires des enfants. Puis tu apprends à connaître des histoires brocadabrantes. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que les gens m'ont donné leur confiance. Là. Mais je vais vous dire une affaire. Il y a 3-4 jeunes dans mon équipe que je regarde différemment, que je comprends leur passage de vie. Puis je me dis, OK... ils ont besoin d'une figure positive, masculine.
Puis ça, tu l'as senti.
Vraiment, j'en avec les parents. Ça nous fait agir différemment par la suite. C'est des informations tellement importantes pour un coach.
Exact.
Moi, je le dis tout le temps. Je dis, dites-moi-le si votre enfant va pas bien, s'il file pas bien, parce que je vais intervenir différemment avec lui.
Puis dans leur comportement... c'est sûr que tu vas être capable de déceler que c'est pas nécessairement de la mauvaise foi. Puis Régine Laurent, dans son constat pour la DPJ, là, le dit et l'a répété, puis elle l'avait dit face à M. Legault aussi dans son ancien podcast. Je sais pas s'il est mort, ce podcast-là, mais il me semble que ça fait un bout qu'on n'a pas eu d'épisode.
Bonjour tout le monde!
Mais elle disait, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas un canal de communication entre intervenants de la DPJ, parfois enseignants, et aussi les gens qui vont prendre les dossiers, parce que ça ferait une toute autre différence quand tu arrives en classe, par exemple, puis que tu sais ce que cet élève-là vit. Elle dit, je vous demande pas de tout mettre à la place publique, de tout déverser, mais elle disait, un minimum de canal de communication entre tous ceux qui sont dans le dossier, parce que l'enseignant, si cette journée-là, mettons, l'enfant est tumultueux, là, il va peut-être pas agir de la même manière au niveau de l'autorité s'il sait que à maison, il y a eu de la violence, ou il y a de la violence conjugale, ou il vient de changer de famille.
T'as tellement raison.
Puis ça me fait penser à ce que tu viens de dire, tu sais. Quand on n'est pas au courant du vécu de quelqu'un, peut-être qu'on ne met pas les mêmes gars blancs ou encore on n'a pas la même attitude envers la personne.
Ah oui, ça change complètement les interventions qu'on peut faire. Donc, je remercie ces parents-là de m'avoir donné leur confiance. Ça a été un super beau vendredi. Puis samedi, je suis allé à Davelioville avec ma mère. J'aime ça encore passer du temps avec ma mère. Oui, elle est venue dans le minivan avec moi, on a jasé, puis après ça, on est redescendu ensemble.
Est-ce
puis...
que c'était la première fois que ta mère allait à Davelioville?
Oui, c'était la première fois qu'elle allait à Davelioville.
Comment elle s'appelle, ta mère?
Elle s'appelle Lucie.
Ma mère aussi s'appelle Lucie.
Ah, fait que
elle habite à Victo, pas loin de Davelioville.
Wow.
Quand tu as parlé du Saint-Hubert de Victo, là, je me suis reconnue là, d'aller avec ma maman Lucie au Saint-Hubert de Victo.
Exactement. Service impeccable, je dois le dire. Non, mais c'est vrai, l'autre jour, on parlait des pourboires. J'ai donné 20% de pourboire.
OK, elle était bonne.
Elle était tellement écœurante, notre service. Parce que, tu sais, des joueurs de hockey dans un restaurant, là, ça finit toujours par faire des niaiseries dans une liqueur.
Ça parle
puis
fort.
Puis elle se tirait un bout de napperon.
Elle s'est inventé des recettes de popcorn.
Ah oui,
une
elle te les a servies, là, tac, tout a roulé. Elle était super avenante. Fait que j'ai dit, hey, elle mérite son pourboire, pas à peu près.
Je savais pas que l'équipe était toute là, mais oui, elle mérite son 20%.
Oh, oui, elle mérite
tu vois un groupe arrivé de même. Hey. Là, pour ceux qui ont déjà été serveurs ou qui le sont toujours, qui nous écoutent, là, tu vois un groupe rentrer, là, tu te dis, oh boy, c'est mieux de rouler cette affaire-là.
Oui, puis en plus, on a appelé dernière minute parce qu'on s'est organisé à dernière minute.
Fait que, ben, oui, tu avais appelé, par exemple.
Oui, mais tu vois, là, on était accueillis 5 étoiles pour une équipe d'hockey qui arrivait. Oui, c'est les Midigo.
Ça y va par là, les Midigo, hey, mais c'est une bonne option.
La petite soupe aux légumes, yes. Les filets de poulet, puis avant, il y a le petit dessert.
Salade de choux, dans le milieu, servez-vous.
Ah oui, bye-bye. Servez-vous, let's go. Puis une petite pinte de bière qui est arrivée bien ben d'adon.
J'ai travaillé à Cajot Sport, puis les groupes de jeunes, là, quand ça s'en venait de hockey, puis tout ça, le popcorn, là, ouais. On était quand même, merde, OK, on va leur partir la machine, mais on savait que ça allait être un calvaire.
Oh oui, ça, c'est le calvaire. Là. Puis là, après ça, moi, je plains les gens qui ramassent le popcorn qui est à terre.
Pas juste le popcorn. La bouillie dans un verre de Pepsi mélangé avec tout ce que tu peux mettre
là,
dedans.
Là, la cage au sport, là, ils ont leur tort, par exemple. Parce qu'ils nous donnent du popcorn gratis vraiment salé pour qu'on boive plus de bière, ben ouais. C'est ça.
Non, non, mais c'est vrai.
C'est le karma.
C'est la même technique que chez Gérard. On passe au caucus.
Le caucus. Le caucus. 102-1. Voici Antonine Iaccarini.
Toute taverne qui se respecte que son popcorn trop salé pour te faire boire. Tout parti libéral du Québec qui se respecte son scandale financier. Regarde-moi donc ça. Des 10 000 piastres. On était au Brownies à 100 piastres. On appelle ça comment? 1000 piastres, Pascal, Antonine?
Attends,
ça va être quoi
là, wow,
le terme?
Wow, Jeff, là, t'exagères un petit peu.
Ah ouais?
Ben là, je veux juste démêler le monde un peu. Parce que quand j'ai vu le titre un matin, tu sais, premièrement, je me suis réveillée vraiment en retard ce matin. Mon enfant est arrivé en retard à l'école toute, là. On était tout mêlés.
C'était pas de sa faute à lui.
Non, c'était papa-maman solide. Puis là, j'ouvre mes yeux, puis tu sais, je commence à regarder les journaux vite en même temps que je faisais à déjeuner. Puis je vois ça, des affaires de 1000$, Parti libéral, je me suis dit, ah non, dis-moi pas qu'ils ont encore payé du monde 1000$ pour l'appuyer, tu sais.
Christian qui nous dit que c'est des 1000 feuilles.
Ah, oh, c'est bon.
J'aime ça.
En plus, ça fait glacée, un lien là. Avec le Saint-Hubert, parce que moi, c'est le dessert
exactement.
Que je prends chez
alors, Saint-Hubert. Les 1000 feuilles. Pablo Rodriguez a donné les 1000 feuilles. À droite, à gauche. Ah, t'as travaillé pour mon gouvernement du Canada. V'là 1000 feuilles.
Bon, c'est ça. Alors, on récapitule.
Ouais.
Il y a des gens qui ont reçu 1000$, tout le même paiement. Et quand le journal s'est tourné vers les libéraux pour demander « Oui, mais c'est quoi ces 1000$-là? » Bien, c'est pas clair. Puis c'est une liste de gens, beaucoup qui sont issus du fédéral, donc de cabinets fédéraux, et notamment le cabinet de Pablo Rodriguez quand il était ministre des Transports. Donc, d'abord, pourquoi est-ce qu'ils ont reçu ça? Quand ils ont posé la question, c'est l'attaché de presse de l'aile parlementaire, c'est l'attaché de presse de Pablo Rodriguez comme chef maintenant du Parti libéral qui a répondu à la question. Déjà, c'est un peu bizarre parce que ça concerne du financement de la campagne de M. Rodriguez. Pourquoi c'est l'attaché de presse de l'aide parlementaire qui répond?
Mais c'est ça.
Et il répond, c'est pour service rendu. C'est pas la ligne que j'aurais choisi pour pas éveiller des soupçons, mais en tout
non,
cas...
Non, c'est ça. Pour service rendu de quoi?
C'est bizarre, OK. Mais sauf que c'est normal de payer des gens pour travailler dans ta course à la chefferie.
Oui.
Okay? Tu peux avoir certaines personnes qui sont bénévoles et tu peux avoir du personnel que tu vas rémunérer à différentes échelles pour travailler sur ta campagne.
Bien, on va prendre exemple. La campagne municipale qu'on vient de vivre, les attachés de presse qui suivent les différents chefs sont rémunérés.
C'est ça. Mais après ça, il faut que tu te demandes comment ils sont rémunérés.
Exactement, parce que normalement, ils sont rémunérés de leur parti politique.
Par leur parti politique. Donc, les partis politiques, ils vont ramasser des dons. Ils vont recevoir aussi de l'argent à la suite de campagnes électorales, que, par exemple, par vote. Là. Sauf que quand on parle d'une course à la chefferie, ben, il n'y a pas d'argent qui arrive par l'argent des votes. Parce que par vote, le DGE verse de l'argent aux différents partis politiques. Donc ça, normalement, c'est pas touché par ça. C'est vraiment les dons qui vont être ramassés dans le cadre des campagnes de chacun des candidats. Les dépenses sont plafonnées et tout est vérifié par la suite. Donc, c'est tout public, ça, par la suite. Donc, donner des 1000$ en échange de services rendus, même si j'aime pas beaucoup le terme, il n'y en a pas de problème. Mais si cet argent-là, s'il y a de l'argent public qui a été dépensé pour payer des gens dans des courses à la chefferie, ça, c'est un enjeu. L'affaire avec ce que le journal a sorti, c'est que le parti n'a pas répondu à toutes les questions. Donc là, encore beaucoup de place à quoi? À la spéculation. Et moi, j'ai appris, parce que j'ai jamais travaillé au fédéral, au provincial, quand tu travailles dans un cabinet et que tu as une fin d'emploi, tu as le droit à une prime de départ, OK? Mais tout ça est normé. Fait que, par exemple, si tu as travaillé 5 ans, tu as accumulé 2 mois de salaire par année.
Ouais.
Donc, tu vas avoir 10 mois de salaire à ton plus haut salaire que tu vas avoir eu. Donc, si tu as commencé à 45 000 là, comme recherchiste puis que tu as terminé à 100 000 comme directeur de cabinet, là, mettons que tu as une carrière fulgurante, bien, tu vas avoir cumulé ta prime sur ton salaire le plus élevé à 100 000 $, mettons. Au fédéral, le ministre a un pouvoir discrétionnaire de donner des primes. Donc, oui, il y a une partie de la prime qui est normée, mais toi, là, mettons, t'es ministre, puis là, on s'en va encore. Tu décides que tu te lances dans une course à la chefferie, mettons. Là.
Mais t'as travaillé pour moi pendant 4 ans, Antonine.
Puis là, tu trouves que j'ai fait une maudite
mon attaché de presse au fédéral, puis Moses, que j'aimais de la façon que tu travaillais. Puis là, je te dis, sais-tu quoi?
Tu mérites.
Traverse le pont avec moi.
Ouais.
Puis toi, là, j'ai un pouvoir discrétionnaire. Je t'en donne 5 000 de plus.
Ben c'est ça. Puis, dans le cas de Pablo Rodriguez, mettons, là, puis encore une fois, nous spéculons, car oui. nous n'avons pas les réponses claires. Là, il regarde sa gang, il dit « Qui vient avec moi faire la chefferie? » Là, ces gens-là finissent leur emploi au côté fédéral, mm-hmm. ils vont encaisser une prime. Oui. La prime qui est normée, là, tu peux même faire ce que tu veux. Moi, mm-hmm. mettons, quand j'ai reçu ma prime de départ, quand j'ai quitté, je me suis tout de suite remise à travailler, j'ai tout sacré ça en banque, en REER, en whatever, oui. ça me regarde. Mais... J'aurais pu décider, au lieu d'aller mm-hmm. travailler, de participer à une course à la chefferie puis d'être payé par ma prime. C'est mon argent, ça me regarde.
Exactement, mais là, l'affaire, c'est que Pablo, lui, il distribue les cadeaux, puis j'ai un extrait justement où il explique comment ça fonctionne. Mais après ça, le cadeau, il revient. Hein? 500$, Geneviève Vines a donné ça à Pablo Rodriguez. Ah, ben, gamme-moi donc ça. On donne des primes compensatoires, discrétionnaires, pour savoir le 500$ en retour.
Ou quand un membre du personnel politique décide par lui-même de quitter, il y a des indemnités de départ qui leur reviennent. C'est normal. Que les membres de mon cabinet m'aient aidé ou non dans le cadre de la course à chefferie ont eu une indemnité discrétionnaire. C'était la même chose pour tout le monde. On a suivi toutes les règles, incluant les règles du Conseil du Trésor. C'est indiscutable.
Et sur les indemnités de départ, est-ce que vous avez utilisé votre discrétionnaire pour donner des indemnités de départ à ceux qui allaient finalement vous aider?
Non, tout le monde a eu les mêmes types d'indemnités de départ.
Pourquoi vous avez une partie discrétionnaire au fédéral, contrairement?
Oui, une partie discrétionnaire. Tout le monde a eu la même chose qu'on avait le droit selon le Conseil du Trésor et tout. Il n'y a pas de différence.
Ça, c'était le 2 décembre dernier lorsqu'il a été questionné là-dessus. Donc là, j'ai nommé l'exemple de Geneviève Hines. Viens-t'en avec moi, ma Geneviève, je vais te donner une job. Puis en attendant, je te donne une prime de départ. Puis selon mon discrétionnaire, je t'en ajoute un peu. Tu me donneras 500$ pour ma campagne.
C'est ça. Donc, la prime de départ normée, c'est correct. OK? C'est à ça que ça sert, les primes de transition en politique, parce que c'est des jobs qui sont précaires. Et des fois, c'est pas toujours facile de se replacer tout de suite. Donc, tout le monde a ça. Mais le bout discrétionnaire, là, ce que je comprends de ce que Pablo Rodriguez dit, c'est que tout le monde a eu la même chose. Je sais, c'est OK, peut-être, on verra. Mais c'est sûr que les autres équipes de chefferie, ils voyaient à l'époque déjà une inéquité parce qu'eux, ils ne pouvaient pas distribuer des primes pour payer leur monde qui était dans leurs équipes. Mais ça, ça fait partie de la vie, dans le sens que quand tu regardes différents candidats à la chefferie dans une course, il y en a, par exemple, qui sont élus et il y en a qui ne sont pas élus. Mm-hmm. Quand tu es élu, tu as du staff qui est payé par ton aile parlementaire. Bon, là, les gens vont dire « Oui, oui, mais moi, je travaille pour l'aile parlementaire, je travaille... Ah, tu travailles pas du tout pour la course à la chefferie? Ah, ben dans mes temps libres! »
Oui, exactement.
Mais on s'entend qu'ils ont un salaire de base à faire un mm-hmm. travail qui est politique. C'est un avantage sur, par exemple, un outsider ouais. qui n'a pas d'employé et qui doit débourser de l'argent de ses dons pour payer son personnel autour de lui.
En effet.
Donc, il y a cet aspect-là. Il n'y a rien de tout ça qui est illégal. Il faut être bien, bien clair, mais du côté de l'éthique, on peut se poser des questions. Puis l'autre élément qui ressort de cet article-là ce matin, c'est que c'est encore une fois beaucoup des gens du Parti libéral du Canada. Donc, on a l'impression quand même que c'est la gang du PLC. Puis pour nous, comme un des mortels qui ne sommes pas membres du PLQ, là, ça ne change rien dans nos vies. Mais pour les libéraux de Québec, du Québec,
ben oui.
eux, là, de voir que le Parti libéral du Canada s'est tout mis dans la même direction là, pour faire placer Pablo Rodriguez à la tête du Parti libéral, c'est sûr que ça doit venir les agacer. Puis pendant la course à la chefferie, ça agaçait déjà. Il y avait l'impression que c'était une autre gang qui n'a pas d'ancrage nécessairement dans le Parti libéral du Québec qui venait vraiment prendre la place.
Puis sais-tu quoi? C'est plus juste une impression parce que le directeur du Parti libéral du Canada, Marc-Étienne Vieux, vient... On lui a donné 10 000$.
Il a reçu 1 000$, Marc-Étienne vient, et il est devenu l'agent officiel du Parti libéral du Québec, qui est la personne qui est responsable de surveiller les dépenses pendant la prochaine campagne électorale en passant.
OK.
Et il est aussi président du PLC au Québec. Donc, il a un double rôle un qui est...
Ouais.
Ben, deux rôles officiels, en fait. Un pour le PLC, puis un pour le PLQ. Ce qui vient aussi démontrer à quel point le Parti libéral du Canada a un peu pris le contrôle.
Ben oui, il a pris le contrôle. Il saute quand, Pablo Rodriguez?
Écoute, je pense qu'il va persister encore un bon bout de temps parce que l'eau qui monte, elle monte doucement. Donc, tu te dis toujours, là, quand tu es dans cette situation-là, là, comme politicien, puis que tu es dans le trouble, là, tu te dis, ah, je suis encore capable de respirer. Oui, je respire encore. Je suis encore capable. Puis à un moment donné, ben l'eau te rentre dans les narines. Là. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'a pas été convaincant pour vraiment briser ça. L'impression demeure que le financement, ça n'a pas été tout à fait correct, tout à fait fait dans les règles de l'art. Et je pense qu'il y a quelque chose qui vient un peu mordre Pablo Rodriguez dans le derrière. Là. C'est que, comment dire, il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas et c'est un choix. Parce que moi, si j'étais chef de parti, puis si j'étais élue en général, là, je serais têteuse. Pas pour faire de la microgestion, puis pas faire confiance aux gens. Mais il y a deux choses que je surveillerais avec attention, c'est tout ce qui sort publiquement. Donc, tous les communiqués de presse, toutes les publications sur les médias sociaux. Tu sais, je reviens à sa maman puis sa campagne
au
municipal.
Ah,
là.
C'est de la faute des bénévoles. Non, c'est de la faute du chef.
Tu viens qu'à relire avant que ça parte. C'est toi, c'est ton nom. Et la deuxième chose, c'est le financement. Est-ce que si on te montre toute la liste de donateurs, tu es capable de me dire que tu connais chacune de ces personnes-là? Pas sûr.
Non,
donc,
en effet.
Il a été, je trouve, négligent. Et ça fait la gestion de crise qu'on voit à l'heure actuelle. Il n'est pas solide parce qu'il ne sait pas, en fait.
Pourquoi un Marc Tanguay, un Monsef Déragi, ça ne sort pas, puis ça ne dit pas « Hey, c'est assez ».
C'est parce qu'en politique, il y a le syndrome de Brutus, qu'on appelle.
Explique-moi ça.
Brutus, c'était le fils adoptif de Jules César.
OK.
Et il avait trahi Jules César. Mm-hmm. Et les Brutus ne deviennent jamais César. Ils ne deviennent jamais calife à la place du calife. Ils ne deviennent jamais chef. Chrystia Freeland, quand elle a poignardé Justin Trudeau en public, là, elle n'est pas devenue chef du Parti libéral du Canada. Puis elle a disparu maintenant. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui va être celui ou celle qui va pousser le chef en bas de la falaise et se sacrifier. Et d'ailleurs, il y a une pétition qui circule en ce moment pour tasser Pablo Rodriguez. Et tout le monde est anonyme là-dedans. Il n'y a personne qui a le courage actuellement de dire publiquement « Faut qu'on change de chef ». Pourquoi? Parce que les deux options sont mauvaises. Si tu gardes Pablo Rodriguez, ben ça va continuer. Mais si tu le tasses, est-ce que c'est vraiment mieux de refaire une autre course à la chefferie? Je veux dire, ça coûte cher, c'est terrible. Ça va s'en
prédéchirer
en année électorale.
En effet, mais avec tout l'ombre de corruption présentement qui plane, les libéraux s'en vont à l'abattoir. Là.
Deux mauvaises options.
En effet. Bon, parlant de mauvaises options, PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon, la semaine dernière, s'est élevé contre la communauté culturelle en disant « Vous avez pas à féliciter Mark Miller. »
Vous êtes déloyaux.
Vous êtes déloyaux. C'est de l'aplaventrisme. C'est... comment il y a dit ça aussi? Dans
vacuité intellectuelle. Je pense que ça veut dire cave, ça.
Oui, exactement. Juste dans des beaux mots. Dans des beaux mots, vacuité intellectuelle. OK, je le retiens parce que je vais peut-être le dire
vacuité,
à quelqu'un un jour.
Je dis pas ça tous les jours, moi, comme mot.
Ben non, c'est pour ça que je l'avais oublié.
Je pense que ça veut dire vide.
J'ai pas essayé de langage. J'ai pas assez de langage. Oh,
on n'est pas assez cultureux.
Mais hier, PSPP était de passage à l'émission Tout le monde en parle. Et Paul Saint-Pierre Plamondon, le roi Plamondon, a fait ses excuses.
J'ai réagi spontanément avec une forme d'indignation au texte que vous avez mentionné. Donc, le tweet faisait référence au contenu de l'article. Dans le contenu de l'article, on voyait des gens très influents dans le milieu culturel parler de Mark Miller comme un ministre d'envergure qui avait à cœur la culture québécoise et qui allait être un grand porteur de dossiers. Et moi, qui est très politisé, ben je sais que Mark Miller, Justin Trudeau et ce groupe-là,
moi,
c'est probablement le groupe de politiciens qui a fait le plus mal au Québec sur le plan du français et de la culture de notre histoire récente. Les 10 dernières années, c'est littéralement la déconstruction de notre écosystème francophone au Québec à travers des mesures en culture et en immigration en français qui sont vraiment nocives pour le Québec. Mais une fois que c'est dit, si c'est à refaire, j'aurais des mots moins durs. Ça témoignait, ben, je dirais, certains acteurs, puis je ferais référence à cet article-là pour que les gens comprennent qu'évidemment, je ne visais pas tout le milieu culturel, je réagissais à cet article-là.
Bon, je m'excuse, mais comprenez, bande d'incompétents, parce que moi, je suis politisé, que j'ai raison quand même de le dire. C'est juste que je m'excuse de l'avoir dit.
C'est ça. Ouais, honnêtement, j'ai jeté des pierres sur cette sortie de Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais mettons, je fais un parallèle avec ma vie personnelle, mettons mon chum, ça ressemble un peu à mes excuses. T'sais, je m'excuse que t'as rien compris. T'sais, puis j'essaie de changer ça dans ma vie parce que dans la vie, il faut reconnaître ses torts. C'est pas des vraies excuses, non. Mais c'est le plus qu'il a jamais fait. Alors, on va lui donner ça. Premièrement, c'est vrai que le chef du PQ s'est pas attaqué à tout le milieu culturel, mais aux porte-parole des organisations qui étaient peut-être un petit peu trop contentes de la nomination de Mike Miller. Et d'ailleurs, il dit Marc Miller tout le temps, Paul Saint-Pierre, par
moment. Ben oui, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un nom anglophone.
Ben moi, si j'étais lui, je ferais exprès d'inciter. Moi, je l'appelle Marc Miller parce que je veux pas qu'il ait l'air d'être le cousin d'Albert Miller, là, ce ministre. Mais cela dit, il admet qu'il est allé trop loin.
Oui.
Et la semaine passée, c'est pas ça qu'il disait, là. Il disait que tout le monde trouve ça bien choquant, mais que les gens finissent toujours par dire qu'il a raison, finalement, puis que ça devient common sense, éventuellement, ces propos qui brassent un peu la cage. Il a dit que c'était des propos réfléchis, parce qu'il y a des journalistes qui ont posé la question, vous avez été impulsif, M. Saint-Pierre Plamondon, puis il dit non, je suis jamais impulsif, moi. Toutes mes sorties sont vraiment réfléchies. Donc, il y a quand même recadrer certaines choses et il a marché un petit peu sur la peinture. Je pense qu'il a bien fait de le faire, honnêtement. Je pense que les gens vont reconnaître qu'une fois de temps en temps, dire « Savez-vous quoi, je me suis trompé, là? »
C'est clair.
C'est juste un geste d'humilité.
Et puis là, en plus, c'est la réconciliation!
Ben oui, parce que Paul Pichet t'es pas content de ça, là, cette sortie-là.
Imagine! Prochain rassemblement de PSPP! Paul Saint-Pierre Plamondon.
Hey, tu sais, quand Paul Pichet est fâché après toi, puis t'es le chef du PQ.
Paul Pichet qui va gratter la guitare.
Monsieur Saint-Pierre, vous avez raison, mais excusez-vous.
Ben oui! Et d'ailleurs, se sont textés!
C'est drôle parce que Paul Pichet et moi, on s'est textés juste avant l'émission.
Ben voyons! Ouais. Texté à tout le monde.
Vous avez le numéro de Paul, vous?
Ben oui, Paul et Paul.
Paul et Paul.
Paul et Paul.
C'est sûr.
Puis essentiellement, on s'est dit, j'avais tort sur la forme, j'avais raison sur le fond, mais il y a une cause qui nous unit, puis c'est ça qui est important, puis on continue.
OK.
Donc, il y a quand même une question de fond que je pense que je soulève, c'est-à-dire notre dépendance à un régime fédéral qui travaille contre nous. Mais une fois que c'est dit, sur le reste, ça me fait plaisir de me rétracter, puis de m'excuser en disant, moi, j'ai fait ça parce que j'ai à cœur la culture québécoise et je crains le déclin rapide dans lequel on est, puis je veux pas qu'on vive dans une torpeur ou en ignorant ce qui se passe réellement.
Écoute, Paul, je viens de te le dire, je m'excuse encore, mais...
ouais, mais là,
j'ai fait pour la culture québécoise!
Ouais, mais tu sais, il peut plaider que l'intention était pas mauvaise, mais tu sais, dans la vie, s'il y avait juste l'intention qui compte, là, ça se saurait. Là,
non,
la forme de ce qu'on dit est importante. Le choix des mots dans la vie est important. Tu peux avoir raison sur le fond, mais tu sais, moi, il y a des affaires que je pense sur du monde, puis que si je leur dis, c'est juste méchant, mais je vais dire, ouais, mais c'est ça, je pense. Je vais le dire. Je suis honnête, je suis transparent. Mm-hmm. Non, tu sais, des fois, à un moment donné, il faut choisir aussi tes combats. Puis je pense que le bilan de cette semaine-là pour Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de se dire que, au-delà du fait d'avoir raison ou tort, c'était pas stratégique.
Non.
Ça a enlevé de la chaleur sur Mark Miller.
Non, et puis ça a enlevé de la chaleur sur le Parti
sur
libéral.
Pablo Rodriguez. Fait que, bref,
une chance qu'il y ait un article un matin, sinon on parlerait plus de Pablo.
Une chance que le journal est là pour,
c'est ça.
Pour les aider. Parce
à ta minute, un journal de Québécois. Souverainiste. Oh!
C'est pour ça que je lui ai dit. Concluez ce que vous voulez.
Non, moi, ça, ces affaires-là, j'embarque pas là-dedans.
Cela dit, il y a pas mal de monde qui était déçu la semaine passée, disant que Paul Saint-Pierre Plamondon était quelqu'un qui était constructif, qui était positif, qui était énergique et tout, et que là, on tombait vraiment dans le négatif. Puis honnêtement, j'ai vu quand même quelques fans finis de Paul Saint-Pierre Plamondon essayer de toutes les manières de l'aider à justifier, puis dire c'est vrai que les artistes sont à plat ventre, puis c'est vrai ci, puis c'est vrai ça. Honnêtement, c'était pas une priorité.
Ouais.
C'est pas une priorité.
Ben non,
ça servait à rien. Fait qu'on passe à un autre appel.
En ta minute. C'est parce que par texto, on nous mentionne ça va être Paul et Paul en tournée.
Yeah.
Fait que je veux juste déjà faire la promotion. Hey, ça va être bon, ouais. Yes, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, en arrière-plan.
Fait les bacs vocaux.
Ouais. Ça avance, Pascal, c'est vrai. Hey, ça va être un rassemblement de PQ incroyable. Je m'excuse aux auditeurs de boulevard.
Est-ce que tu t'excuses parce que je chante?
Non.
OK.
Hey.
Sinon, en donner une excuse, toi, d'avoir chanté.
Je m'excuse que vous ayez pas de
très
goût.
Bien. Ouais, c'est ça.
Non, tout le monde chante mieux que moi dans la vie. Donc, j'accepte que tout le monde chante à part moi.
Pas Max.
Ah. Alors, Maintenant...
Il n'est pas là pour se défendre, ouf. Pauvre Max.
Ah, même s'il était là.
Il se défendrait pas.
Maintenant qu'on sait que Paul et Paul pourraient partir en tournée, maintenant que l'harmonie est revenue au sein des groupes séparatistes, la CAQ, eux autres, ils ont décidé, ça va être monsieur, madame dans les écoles.
Oui,
puis
monsieur.
Là, Antonine Iaccarini, t'as bien beau promouvoir le droit des personnes trans, le droit des personnes non-binaires, c'est monsieur, madame, c'est de même, ça marche. Si Donald Trump le fait aux États-Unis, nous autres aussi, on va le faire.
Hey, tu viens tellement de faire le lien, je trouve, parce que c'est vrai que depuis le retour de monsieur Trump à la Maison-Blanche, on sent quand même le ressac.
Ben oui.
Je pense qu'il y a pas mal de Québécois qui trouvaient que c'était allé loin dans les dernières années, qu'il y avait eu peut-être un peu de dérapage. Des années Trudeau aussi, tu sais, il y avait eu pas mal de... On avait poussé le DI très loin.
Moi, je fais partie de ces Québécois-là qui ont trouvé qu'au niveau du multiculturalisme, on avait démontré une trop grande ouverture sans vraiment... prendre en considération notre capacité d'accueil. Puis au niveau de tous les droits LGBT+, bien là, tu sais, des fois, on dirait qu'on était de retour dans les accommodements raisonnables. Mais de ce côté-là, je me dis, ah, il y a peut-être moyen de faire différemment, mais tout en gardant une ouverture d'esprit. Là. Tu sais, je me souviens, c'est avec toi, Pascal, qu'on avait fait une entrevue avec...
Robichaud.
Béatrice Robichaud, ça, je la connais bien. On l'a fait dans le matin avec. Je l'apprécie, je l'adore. Mais on avait fait une entrevue aussi avec une jeune femme qui était en processus de changement de sexe. On avait fait ça sur l'heure du midi, moi, toi
nom.
Et Audrey.
T'as raison.
Tellement intéressant. Ouais. Et ça, je le dis, pour moi, c'est une entrevue marquante dans ma vie.
Je pense qu'elle est encore sur YouTube, la chaîne de BLVD, en passant.
C'est une entrevue marquante pour moi dans ma vie parce que ça m'a fait changer plein de perceptions.
Mmh. Bien, c'est de se mettre à un moment donné dans la peau de ces personnes-là aussi.
Oui.
Hein, parce que c'est une minorité. Donc, c'est pas tout le monde qui a l'occasion de jaser avec des personnes qui sont en transition de genre ou des personnes qui sont non-binaires. Je reviens sur la directive un instant du gouvernement. C'est qu'avec l'arrivée du code sur le civisme à l'école, venait le retour du vouvoiement. Et maintenant, on appelle les profs Monsieur Untel ou Madame Untel. Et dans la directive, il n'y a rien qui indique qu'on peut... Parce qu'il y avait eu, il y a quelques années, un débat avec... des profs non-binaires qui se faisaient appeler d'un nom bien particulier, ça avait fait des vagues et tout ça. Dans la directive, on ne précise pas ce qu'on fait avec les personnes non-binaires ou les personnes trans, bref, les personnes qui s'identifient ni homme ni femme, donc ni monsieur ni madame. Est-ce que ça voulait dire que c'est interdit que dans les écoles, un enseignant ou une enseignante ait une autre manière d'être qualifié? Ça, disons que comment la directive a été interprétée, c'est monsieur ou c'est madame.
Oui.
Maintenant, du côté du gouvernement, on nous dit que si les écoles veulent mettre des exceptions, ils peuvent le faire, mais que ce ne sera pas au ministère de dire et de faire un cadre exactement pour ça. La réalité, là, c'est que c'est politique. C'est très polarisé. Donc, si le ministère ou le cabinet de la ministre ou du ministre à l'époque dit pour les exceptions, ce sera aux écoles de le gérer, c'est sûr qu'il y aurait eu des gros titres qui disent « Le gouvernement permet qu'on ait des noms non-binaires, puis des genres, puis des pronoms. »
Et pire encore, si on avait dit « C'est plus monsieur ou madame », c'est ça, c'est encore la minorité qui gagne.
Exact. Fait que là, c'est la tyrannie de la minorité. Ouais. Puis il y aurait eu des chroniqueurs plus conservateurs qui auraient dit que c'est bien épouvantable, puis qu'on fait rentrer les théories de genre dans les écoles et nanana. Et si tu mets rien dans la directive et que tu laisses une liberté d'action du côté des écoles, ça fait ce que ça a fait cette semaine, c'est-à-dire que ça avait l'air que maintenant c'est interdit de dire autre chose que monsieur, madame, et d'aller voir des groupes de défense LGBTQ et quelques enseignants peut-être qui ne sont pas très nombreux, il faut le dire. Là. C'est des cas assez rares, là, somme toute, qui allaient sortir dans les médias. Il y en a certains d'entre eux qui sont plus militants aussi, hein, dans ces groupes-là. Donc, j'ai l'impression que le gouvernement a juste choisi son inconfort et que, évidemment, entre les gens qui trouvent que ça va trop loin, l'identité de genre puis la diversité de genre dans les écoles versus les groupes LGBTQ, d'après toi, qui c'est plus facile d'avoir de son bord?
C'est plus facile d'avoir ceux qui pensent que ça va trop loin. Je termine avec le texto d'un auditeur ou d'une auditrice. Et en passant, cet auditeur-là, auditrice, tu veux te nommer parce que régulièrement, cette personne-là écrit puis elle écrit des propos très sensés. Qui vont des fois à l'encontre de mes opinions, puis j'aime ça challenger de cette façon-là.
Ça challenge, c'est bon.
Et puis, mais là, je suis très d'accord. Je suis pour les droits de tout le monde et ce que je viens d'entendre sur les trans et LGBT. Vivre et laisser vivre. Bonne journée. Ces personnes-là dérangent personne.
Exact.
Et voilà.
Moi, je trouve que dans 99,9% des cas, c'est possible d'inclure tout le monde puis que tout le monde se sente bien. Sérieux, il suffit de faire un effort de se dire comment on peut être inclusif sans, par exemple, les pronoms dans les courriels. Mm-hmm. Moi, j'écris pas mes pronoms dans mes courriels. Par contre, si les gens veulent le faire parce qu'eux, ils se font mégenrer tout le temps, ils se font parce qu'ils sont non-binaires, ben c'est bien correct. Mais à un moment donné, quand ça s'est mis à être imposé à tout le monde, je me suis posé la question, je me suis dit, ah, c'est drôle qu'on impose à tout le monde pour qui, en fait? T'sais, souvent, dans les organisations, il n'y en avait même pas vraiment d'enjeu. Mais je pense que l'important, c'est de se poser la question.
Oui.
Comme organisation, comme société, comme communauté, de dire, est-ce qu'on est capable d'inclure tout le monde plutôt que d'avoir des réactions épidermiques, genre non, moi, je veux pas. Ben crime, prenons deux minutes. Ces gens-là, ils n'ont pas disparu puisque Donald Trump est arrivé au pouvoir. Là,
non,
à un moment donné. Aussi, là, c'est comme s'il n'existait plus tout à coup, des fois.
Polariser le débat pour tenter de régner, pour moi, c'est faire de la petite politique.
Bravo, bien dit.
Merci. Hey, pour une fois, je suis intelligent. J'avais oublié le mot, là. Quel mot que j'avais oublié, là?
Vacuité?
Oui.
Excusez, j'ai accroché quelque chose.
Paul était d'accord avec toi.
Ouais. Vacuité, exactement. Vacuité intellectuelle.
Ouais.
Ça veut dire...
Tu vas-tu le dire maintenant tous les jours?
Ça veut dire t'es cave.
C'est ce que je pense.
T'es cave et moi, je ne le suis pas.
C'est ça. Ah, je suis content d'être maintenant quelqu'un de vrai m'indiquer. Bon, on s'arrête là-dessus avant que je perde les pédales. Après la pause, on fait le tour de l'actualité parce que notamment Air Transat, menace de grève. Ceux qui voyagent comme Yannick Marceau disent « Oh my God, qu'est-ce qui va m'arriver? » Et j'ai également un extrait de Pierre-Carl Péladeau qui parle que la compagnie pourrait ne pas s'en remettre de cette grève-là. Donc, c'est à suivre. Et j'ai parlé également avec Francis Vaille, qui est un chroniqueur à La Presse. Il a fait une excellente recherche. Il est parti de 4 talons de paye de médecins, mais aussi leur fichier Excel où il explique tous les actes qu'ils font, comment sont payés. Il a envoyé ça au gouvernement. Le gouvernement a dit oui, en effet, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que là, il a pris la loi 2, il l'a décortiqué, puis il a fait les salaires de ces médecins-là. Qu'est-ce qu'ils vont avoir avec la loi 2? Il a envoyé ça au ministère qui ont dit « Vous avez entièrement raison. Selon vous, 418-971-1021, les médecins ont une hausse de salaire ou une baisse de salaire? » C'est ce que vous allez apprendre. Pascal, tu vas être surprise en tabarouette. Moi, j'ai fait un méchant saut.
Je ne sais pas à quel point, par rapport aux commentaires qu'on a eus, mais les calculs, merci de les avoir faits.
Exactement.
Ce qui est intriguant puis ce qui est un peu démotivant, c'est que tout le monde pouvait le faire au sein du gouvernement aussi. Pourquoi ça prend un journaliste?
Mm-hmm. Oui, puis il a fait un travail de moine, je le félicite. Oui. Francis Vaille du journal La Presse, un chroniqueur avec qui j'ai eu la chance de m'entretenir. Je vais vous passer quelques extraits. Vous êtes à l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. L'émission On en jase, qu'on n'aime pas à peu près faire. C'est du lundi au vendredi de midi à 14h. On aime ça, notre émission, parce que c'est vrai. OK, ouais, j'ai pas ouvert ton micro. Qu'est-ce que c'est ça?
Voyons là. Ça va aller mieux comme ça.
Et voilà, moins 16 degrés, Pascal, présentement. On est vraiment en hiver.
Ça sent, c'est un froid qui est vif. Mais c'est une belle journée pour du skidoo. Ce n'est pas le temps nécessairement, mais ça s'en vient tranquillement, pas vite, les activités extérieures.
La température va baisser en cours de semaine parce que c'est moins 12 demain, mais moins 5 mercredi, si je regarde à plus long terme, c'est moins 4 jeudi. Mais il y aura de la neige mercredi et jeudi. Là, c'est trop tôt encore pour parler des accumulations. Mais prévoyez un petit peu de neige pour le reste de la semaine. Pascal, en actualité, un dossier qui fait beaucoup jaser, c'est cette grève à Air Transat. Là, parce que là, nos amis qui veulent aller voyager, boy, que c'est difficile pour eux.
Oui, bien, c'est une situation qui stresse autant les voyageurs que les agences de voyage, que, je pense, l'entreprise elle-même. Est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de s'offrir, je le mets en parenthèse, une grève? Selon les rumeurs, selon les petites informations qu'on a ici et là, Mel Guillemette aussi, qui est passé de voyage, oui, à Quatera dans l'émission du matin avec vous autres, les gars, le disait la semaine passée. C'est un casse-tête, mais ça a beaucoup plus d'impact qu'on pense parce que Air Transat, c'est difficile au niveau de la compagnie aérienne d'entrer dans leurs chiffres depuis quelques années maintenant. Et là, ça se dessine pour vrai. Les agences de voyage vont avoir à jongler avec appels de clients, avec report de voyage, essayer de trouver une solution, le stress de ces gens-là aussi, parce qu'il y en a qui sont capables de vivre avec le stress, de dire « on verra la journée même ». Puis normalement, c'est ce qui est le meilleur, parce que quand tu es obligé d'annuler la journée même, ben là, tu as assurance voyage et tout ça qui entre en ligne de compte. Mais ça va être assez rock'n'roll dès ce matin, en fait, de bonne heure. Là, c'est rock'n'roll parce que préavis de grève, c'est pas drôle au niveau de l'entreprise. On cherche comment on va réussir à s'en sortir avant que ça impacte tous les voyages du temps des fêtes. Et il y en a un qui a fait surface dans tout ça. C'est Pierre-Carl Péladeau.
Le médiateur!
Il se propose comme médiateur pour la possible grève d'Air Transat. Pierre-Carl Péladeau, ce qu'il souhaite, c'est que finalement, ça se résorbe. Je vous rappelle que c'est le président et chef de la direction de Québecor. Et on a déploré cette situation-là, particulièrement à l'approche des fêtes. Mm-hmm. Puis il veut éviter la catastrophe, lui, Pierre-Carl Péladeau.
Oui, c'est ça. Bien, il faut dire que 10 % des parts dans Air Transat. Oui. Il était en entrevue à Mario Dumont ce matin. On l'écoute. Lui, il ne pense pas qu'Air Transat peut se sortir d'une grève durant le temps des fêtes.
Oui, oui, oui. Bon, je ne rentrerai pas dans la mécanique là, des finances de l'entreprise, là, mais il y a des flux monétaires qui rentrent. Si on n'est pas en mesure de pouvoir les obtenir, parce que ce ne sont pas que les pilotes là, qui vont être en grève, il y a également aussi les autres employés qui vont devoir également aussi continuer à travailler. Donc, tout ça, effectivement, je dirais
ça que... Ça veut dire qu'on va payer les autres employés à rien faire. Là. Donc, les revenus vont arrêter de rentrer, mais il faut sortir les payes des autres employés quand même.
Je pense que vous avez eu l'occasion donc, de dépeindre un petit peu la situation financière et les conséquences que la grève d'Air Canada a causé à l'entreprise. Ça a été 335 ou autour de 350 millions de pertes d'exploitation.
Sauf eux, ils ont des milliards en banque.
Exactement.
Ça
ils sont capables de le prendre. Air Transat n'est pas en mesure de pouvoir faire ça. C'est clair, net et précis. Non?
Donc, une grève qui se prolonge, bien c'est de l'argent qui sort des coffres, zéro qui rentre. Et là, bien, dans le cas d'Air Canada, on le voyait, c'était 350 millions environ. Mais avec des milliards dans le compte de banque, tu dis, bon, je passe au travers, puis je recommence mes activités, mais Air Transat, si ça fait ça, bien, la compagnie va fermer. Là.
Exact. Puis en plus, le temps des fêtes, c'est là où souvent on renfloue les coffres. Ben c'est la grosse période de l'année. Puis Pierre-Carl Péladeau, c'est pas lui à titre de monsieur, là, c'est qui est actionnaire. Il est actionnaire par l'entremise de la société d'investissement qui s'appelle la Financière d'Outremont, qui est sa société d'investissement. C'est pour ça là, qu'il dit qu'il veut se prononcer. Donc, on estime là, que si on gère pas ça d'une autre manière, ce conflit-là d'employeur envers employé, c'est peut-être la fin pour l'entreprise. Qu'est-ce qui vous est proposé, en fait, si jamais vous voulez un peu un service malgré une possible grève? Bien, si vous êtes à l'étranger, vous allez compléter votre voyage assurément, puis à un moment donné, il va falloir consulter avec votre agence de voyage ou encore d'autres transporteurs les possibilités qui s'offrent à vous. Vaut pas la peine de s'acheter un billet avec une autre entreprise sans avoir parlé à ceux qui gèrent votre voyage. Mm-hmm. Ça se peut que vous fassiez couper l'herbe sous le pied à partir de ce moment-là. Sinon, pour tous les clients, vous allez devoir être patient. Les lignes téléphoniques sont pleines en raison du volume d'appels, mais c'est assurément le transporteur qui va pouvoir vous aider. Mais comment? C'est ça qu'on ne sait pas. Puis les indemnisations pour les voyageurs qui sont en Europe, puis le voyage de retour ou encore le voyage serait compromis par la grève, vous allez avoir le droit à une compensation pouvant aller jusqu'à 1 000 par passager, en plus des remboursements prévus.
Donc, c'est dossier à suivre. On va souhaiter un règlement. C'est 59 % d'augmentation salariale que l'organisation, c'est-à-dire Air Transat, a laissé transparaître dans les médias en disant qu'on a offert ça aux pilotes sur 4 ans. Donc, à voir comment qu'on va réussir là, justement à se débrouiller là, avec tout cela.
Il y a un petit quelque chose que certaines personnes voulaient avoir un retour et des nouvelles. C'est pour les élections municipales ici à Québec. Ça a coûté moins cher que prévu pour l'assermentation des élus à Québec. Là, tout le monde capotait.
Nouvelle.
L'assermentation au Château-Frontenac. Franchement, on a-tu vraiment le budget pour ça? Ça devait coûter 47 600. Ça a coûté 38 000 $ la cérémonie du 9 novembre dernier pour l'assermentation au municipal. Et là, on sait que la facture totale, c'est à la toute fin là, qu'on a été capable d'établir que finalement, ça s'est chiffré à la baisse. Plus de la moitié des coûts qui ont été économisés vient du fait qu'il y a eu moins de services techniques qui ont été nécessaires ce jour-là. C'est pas mal pour ça que la facture est moindre.
Tant mieux. J'espère que pour les années futures, on va continuer à diminuer cette facture-là. Et peut-être le faire dans des endroits un petit peu moins glamour que le Château-Frontenac.
Peut-être, oui. Bernard Drainville fait l'actualité aujourd'hui. On s'amusait en fin de semaine à se dire, Bernard Drainville, avec son nouveau ministère, est-ce le ministère qui fait parler ou le fait que ce soit Bernard Drainville qui l'ait entre les mains. Mais il y a des projets d'entreprise. On veut raccourcir les échéanciers des autorisations. Si vous dites, voyons, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette histoire-là? Bien, il est ministre de l'Environnement maintenant. Il a présenté aujourd'hui une conférence de presse. Dans cette conférence de presse-là, il y a un projet de règlement en vue pour raccourcir les échéanciers sur l'autorisation des projets industriels, agricoles, commerciaux. On veut aller plus vite. On veut que ce soit plus concis. Un peu comment je peux le résumer. On ne peut pas garantir que la cible va être respectée. Cible de 9 mois initialement, mais c'est ce qu'on vise. Donc, le syndicat des professionnels du gouvernement craint quand même que l'autorisation environnementale soit bâclée dans cette façon de procéder-là. Et il va s'écouler 18 mois entre l'étape d'analyse de la recevabilité de l'étude d'impact du promoteur et la recommandation formulée au ministre.
Alors, va y aller de façon plus ciblée. Oui. C'est ce que j'ai vu en écoutant une partie de sa conférence de presse ce matin. Par contre, Pascal, là, t'sais, c'est fou. Là. S'il y avait à peu près 42 étapes pour arriver à un oui ou un non, ben là, on l'a réduit à peu près de moitié, mais il en reste quand même 21.
Oui.
C'est long en petit péché faire quelque chose. La différence que je comprenais, c'est qu'on va vraiment faire des études d'impact maintenant plus ciblées que des études d'impact générales, oui, faisant en sorte qu'après ça, on revenait avec une question en disant « Ouais, peux-tu me cibler plus ça? » Et là, ça faisait en sorte que ça s'étirait. Là.
On va mieux travailler, finalement, les projets en amont. Puis c'est comme ça qu'il a décrit, Bernard Dréville, ce matin, la technique zigzag. Il ne veut plus que ce soit du zigzag. Hein? On va à gauche, on va à droite, on va à... Non, on va aller tout droit. Puis ça va être des évaluations environnementales deux fois plus rapides, mais sans compromis sur la rigueur. C'est ce qu'il souhaite et ou propose à suivre si... ça va pouvoir se concrétiser.
On verra, parce que souvent, plus rapide, c'est moins rigoureux.
Oui.
Veux pas, ça vient ensemble.
Oui. Mauvaise méthode de travail qui a causé la mort d'un déneigeur. C'est dans l'est du Québec. On en parle parce qu'on est à l'aube des grandes opérations déneigement. Mort d'un déneigeur de remorque. Il faut savoir que l'accident est arrivé le 28 mars dernier. Et c'est un travailleur qui s'affairait à déneiger le toit d'une remorque. Elle était immobilisée sur un stationnement dans la cour d'une entreprise dans le Bas-Saint-Laurent. Mais pour déneiger la remorque, il y avait une échelle aérienne. Puis elle était fixée dans la boîte d'une camionnette. Puis malheureusement, une fois le déneigement de la remorque qui était terminé, est remonté sur l'échelle, puis le conducteur de la camionnette a déplacé le véhicule. Alors, le travailleur, toujours sur l'échelle, il a perdu pied, il a chuté d'environ 4 mètres. Tu sais, une niaiserie là, qui, finalement, coûte la vie de quelqu'un puis d'un travailleur. Comme quoi, il faut toujours tout surveiller. Puis on rappelle aussi, à l'aube de ces déneigements-là, l'importance, justement, de faire, malgré tout, le déneigement des dessus de camions et de ne pas prendre ça à la légère, parce que sur le pont, entre autres, de Québec, nombreux sont les automobiles à recevoir des plaques de glace et tout ça.
Excellent. Une petite dernière?
Oui, puis non la moindre. C'est dans le soleil aujourd'hui. C'est de la justice des faits divers. Et le titre est « Il espionnait sa conjointe et sa belle-sœur dans la douche ».
C'est épouvantable, cette histoire.
Pas la première fois qu'on a une nouvelle comme ça. Et toujours aussi percutant. Là, on est à Saint-Mathieu-du-Parc, en Mauricie. C'est un homme de 25 ans. Il a admis avoir filmé en cachette à plusieurs reprises deux femmes. Il a plaidé coupable à des accusations de voyeurisme et d'entrave à la justice. Ça a été la semaine dernière où ça s'est fait au palais de justice de Trois-Rivières. On remonte au mois d'octobre 2024.
Ça doit être deux femmes qu'il ne connaissait pas, là.
Ben non, il les connaissait, c'est ça le pire. Une des deux femmes, c'est sa blonde, puis l'autre, ben, c'était sa belle-sœur. Donc, c'est du monde près de lui. Ça, c'est quand tu te dis que tu as confiance
ben
envers
qui
est dans ta vie et tout ça. C'est un résumé de fait à glace et le sang. Pour des raisons de vulnérabilité, cette fois-ci. Mais en décembre 2024, sa conjointe et sa belle-sœur habitent au même endroit, puis ils soupçonnent l'individu de tromper sa blonde. Mm-hmm. Puis la femme a fouillé dans le téléphone de l'accusé et elle est tombée sur 15 photos en rafale de sa propre sœur nue qui sort de la douche dans la salle de bain de la résidence et tout ça.
Hey, tu dois-tu t'en poser des questions pour te dire, voyons donc, quand même, c'est l'homme que j'aime, qu'est-ce qui se passe?
Puis sur le coup, elle aurait supprimé les photos de l'appareil puis même les photos de la corbeille de l'appareil. Mm-hmm. L'accusé a été réveillé puis a été invité à quitter la résidence par sa conjointe et la mère de celle-ci, on s'entend. C'est comme ça que c'est écrit dans le journal Le Soleil. Il est reparti avec ses effets personnels et tout ça, mais plus tard, les plaignantes, ben, une des plaignantes a mis la main sur une micro-carte SD qui était dans la table de chevet puis qui était utilisée par l'accusé. Ça rappelle plein d'histoires, t'sais, entre autres, celle, t'sais, quand tu trouves du matériel informatique comme ça, celle d'un pédophile qui avait vendu un manteau sur Marketplace, puis la personne qui l'avait acheté avait dit « voyons que c'est ça, la clé USB dans le manteau, l'avait branché. »
Moi, ça me fait toujours penser à l'affaire Pellico aussi en France.
Oui, aussi.
Où c'est sa propre fille qui a découvert justement au départ des photos d'elle et de sa belle-sœur. Puis là, quand on a creusé, ben là, on a trouvé les vidéos des viols. Là, donc,
épouvantable.
Épouvantable, certainement. Donc, ça me fait toujours penser à ceci. On va changer d'idée un peu avec quelque chose de plus le fun, c'est-à-dire le Canadien de Montréal.
Ce sera Suzuki en déplacement. Suzuki a des options. S'approche, la passe, reçue, devant, dédié, et le but! Cole Caulfield! Et encore une fois, c'est l'avantage numérique.
Cole Caulfield a marqué face aux Leafs de Toronto samedi. Il a fait une passe hier dans le match, si bien qu'il est à 11 matchs de suite avec au moins un point. Pour Cole Caulfield, c'est une excellente saison. 16 buts, 15 passes, 31 points. Son plus grand nombre de points en carrière, c'est 70. C'est l'an passant, 82 matchs. Donc, il a une meilleure moyenne jusqu'à présent. Le Canadien a battu les Leafs en tir de barrage 2-1 samedi. A perdu hier 4-3 contre les Blues de Saint-Louis. Donc, là, au classement, sont toujours 3e de la division Atlantique à 33 points. Mais tout le monde est dans le même nombre de points. Affronte le Lightning de Tampa Bay mardi qui trône au premier rang de la division. Mais tu vois, 34 points. Donc, ça va être très, très, très serré. Pascal, je pense que c'est le temps de gâter nos auditeurs. On vient de parler hockey. Hockey, ça fit avec... Hein, c'est le temps des fêtes. Ça fit avec bouffe. Ça fit avec Fromagerie Victoria, ça.
Oh oui, c'est parce que c'est pas juste des poutines, la Fromagerie Victoria. C'est non, aussi ouais. Une sélection de repas maison qui sont prêts à apporter. Ça, c'est assez parfait pour les soirs pressés, les soirs
oh
de semaine.
Oui.
Encore là, quand tu vas souper chez quelqu'un, un cadeau d'hôtesse avec un repas préparé pour cette personne-là qui va peut-être avoir à manger le lendemain après le gros ménage, mais ça comble les envies de comfort food aussi, la Fromagerie Victoria. Cette semaine, on veut connaître les ingrédients qui donnent du kick à vos repas, hein, un petit plus, parce qu'on a un panier cadeau rempli de plein de produits maison de la Fromagerie Victoria à vous offrir. C'est d'une valeur de 150 $ et ça, on va le faire chaque jour. Ce panier-là comprend une lasagne, un pâté chinois, un pâté au saumon, un pâté à la viande, un pâté mexicain, une tarte au sucre et un kilo de fromage en grains. Tout ce que vous avez à faire, c'est de texter ce que vous mettez dans votre pâté à la viande pour donner un petit kick quand vous le préparez à la maison. Je vous rappelle, à gagner, panier cadeau de produits maison d'une valeur de 150 $. Puis Fromagerie Victoria qui est toujours à vos côtés si vous avez besoin de quoi que ce soit, dans le frigo de préparer, dans le congelé ou encore en frais, en succursale ou à la commande à l'auto.
Donc là, j'ai juste à texter au 418-971-1021. Ouais. On texte quoi?
Mais c'est ça, c'est ce que tu mets dans ton pâté à viande pour donner un petit kick.
Oui. Ce que je mets dans mon pâté à viande, moi, c'est Val qui est fait, pâté à viande, il faudrait que je lui demande. Mais bref, textez-nous au 418-971-1021. On veut des cuisiniers ou des cuisinières du temps des fêtes. On veut les récompenser, hein, t'sais, pour que si jamais ils sont pressés, là, ils vont pouvoir faire « oui ». Parfait, good. On fait ça. Donc, allez-y, textant grand nombre, 418-971-1021. Pascal, t'es-tu comme moi? Est-ce que tu te poses la question depuis le début de la chicane entre les médecins et le gouvernement? C'est qui a raison?
De moins en moins.
Ouais, explique-moi donc ça.
De plus en plus, je comprends par les témoignages des médecins qui nous contactent, des pharmaciens, pharmaciennes, des préposés, des tous ceux qui finalement subissent aussi les dommages collatéraux de cette grève-là, que ça a été bâclé, que ça a été mal ficelé, peut-être pour sortir ça avant une possible campagne électorale. Est-ce la faute à Dubé? Je sais pas. Est-ce la faute à Legault? Je sais pas. Mais chose certaine, je commence à plus en plus comprendre que derrière ces chiffres-là et cette façon de faire-là, il y a des impacts très dommageables.
Exactement. Il y a Francis Veille, un chroniqueur au journal de La Presse. J'ai lu son article samedi. J'ai tellement été étonné de ses conclusions. Je lui ai demandé qu'il nous parle. Il n'était pas disponible durant l'émission. Donc, j'ai fait une entrevue avec lui avant l'émission. Je vais vous en présenter des extraits. Lui, dans le fond, c'est justement ce qu'il a fait. Il a dit « Moi, je veux savoir la vérité. » Fait qu'il a trouvé 4 médecins. Il va vous expliquer dans le premier extrait, c'est des médecins qui proviennent de où et surtout, c'est quoi leur charge de travail. Puis ce qu'il a fait, c'est que les médecins lui ont expliqué comment le salaire était calculé, fichier Excel, talon de paye, tout le kit. Il a étudié la loi 2 avec des juristes. Il a fait le calcul pour les médecins avec la loi 2 et il en est arrivé à une conclusion. Un travail de moine exceptionnel. On le remercie pour le temps qu'il nous a accordé et puis pour le travail qu'il a fait.
Que ce soit lui qui fasse ça et pas le gouvernement.
Oui, exactement. C'est parce qu'il est parti du principe où lui, il disait, ben voyons donc, crime, le gouvernement ne peut pas faire quelque chose qui va faire diminuer les salaires autant des médecins. Donc, c'est ce qu'il écrivait comme chronique. Et il y a des médecins qui lui ont dit, ah ouais, check bien ça, je vais te montrer la preuve, mon Francis. On va régler ça. Premier extrait, il nous parle justement qui sont les médecins avec qui il a fait l'étude.
Tout à fait. Les GMF, dont eux travaillent, ils ont autour de 1500. Quelqu'un en a une qui a autour de 1200 patients. Une autre médecin, ce n'est que des femmes dans les exemples, 1850 patients font 17, 16, 17, 18 axes par jour. Donc, 18 visites de patients. Fait que c'est à peu près la moyenne au Québec, ce genre de choses, pour les médecins de famille.
Quatre médecins dans quatre régions différentes, des femmes qui travaillent en GMF, puis qu'ils ont le nombre de patients requis. Tu sais, c'est pas des médecins que le gouvernement traiterait de paresseux, puis c'est pas des médecins non plus qui ont 3000 patients puis qui travaillent 80 heures par semaine.
Dans moyenne.
Deux médecins qui font leur job, qui sont dans moyenne, qui répondent aux besoins de la population, puis qui sont des bons médecins, justement, pour leurs patients. Là, ça y est, il est arrivé, puis il a dit, bon, ben vu que j'ai pris ces médecins-là, des médecins, entre guillemots, normales, des médecins qui travaillent pour l'État et qui font leur travail, il se dit, bon, ben je vais faire le calcul des salaires. Selon toi, les médecins, ils en perdent ou ils en gagnent?
Perdent.
Ouais, ils en perdent. Écoute bien ça.
Exactement. Donc, à partir du moment où ils m'ont fourni, les médecins m'ont fourni les renseignements qui me permettent de déterminer la rémunération, donc la rémunération qu'elles ont actuellement, et donc le volume de patients qu'elles ont aussi, le volume d'actes pour estimer l'impact avec la loi 2, moi, j'ai recommuniqué avec le ministère pour m'assurer que tout était bien conforme, qu'il n'y avait pas d'erreur, qu'on n'oublie rien, là. Et c'est là que je suis arrivé à des estimations de perte de revenus de la part des médecins de 23% si jamais ils atteignent les cibles, là, ou même 35% s'ils font la même pratique, si c'est statu quo dans leur cas. Fait que...
23% de perte. Et ça, c'est s'ils atteignent les cibles. Donc, les quatre médecins qu'il avait avec lui pour l'étude gagnaient en moyenne 305 600 $. Alors, s'ils atteignent les cibles, ils vont passer à 233 000 400 $. Et s'ils n'atteignent pas les cibles, ils vont passer à 197 300 $. Tu sais, je peux bien croire qu'ils sont des privilégiés de la société avec leur salaire. Ben, il faut dire qu'ils ont fait des études puis ils le méritent, là.
Honnêtement, ils ont étudié pour. Exactement. Ils prouvent qu'ils sont capables de nous soigner, là.
Mais ça n'a aucun bon sens qu'un médecin qui gagne 305 000 passe à 197 000 pour des objectifs que le gouvernement va mettre, mais pas juste à lui. À l'ensemble des médecins. Fait que ça veut dire s'il y a deux, trois collègues qui font pas leur job, mais ben lui, il est pénalisé. Ça fait pas de sens pour moi.
Et puis, tu te rappelles-toi tout ce que je t'ai lu comme témoignage de médecin, j'en avais récolté ben des dizaines et des dizaines. Nous, on n'était pas capable d'aller faire l'exercice de chiffrage comme ça. Il faut un journaliste d'enquête comme celui qui l'a fait du côté de la
comme
presse.
Comme Francis Veil de la presse.
Mais très honnêtement, c'est ça qui ressortait beaucoup. Puis il y avait du questionnement de la part des auditeurs de dire, OK, attendez, là, mais s'ils en perdent autant, on commence à comprendre, malgré que ce soit des sommes élevées. Il y a des gens qui vont perdre leur maison, il y a des gens qui vont perdre la clinique parce qu'ils sont considérés comme semi-travailleurs autonomes. Mais en baissant leur salaire, c'est en baissant les revenus aussi que la clinique fait. Donc, le bail, sont-ils capables? L'équipement, sont-ils capables?
Sur le 305 000, normalement, il y en a à peu près 40 % qui va retourner dans leur clinique parce qu'il faut qu'ils payent du personnel, le loyer, les équipements, etc. Fait qu'il aurait 60 % autrement dit. Mais là, ce qui fait en sorte que là, le 40 % de 190 000 va devenir encore plus important. Donc, ça fait en sorte que vraiment, ça les met en difficulté.
Avec cet effet entonnoir-là que tu viens de décrire, on enlève les coûts pour faire rouler la clinique, il reste un pourcentage. Ouais. Pour beaucoup, ça fait en sorte qui paient pour travailler.
Oui, exactement. Ça n'a aucun sens. Et là, bien évidemment, c'est l'effet domino. Ceci arrive, les médecins ont fait leurs calculs. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il se produit?
Tout à fait. Il y en a une qui me dit qui va perdre là, prochainement deux médecins là, qui vont partir à la retraite, juste que c'est un drame dans leur corps. Ils passent de 16 à 14 médecins. Fait que ces deux médecins-là, vous comprendrez que dans la région c'est, ou dans ce GMF-là, deux médecins, ben, si chacun a 1500, 1600 patients, ben, c'est 3200 patients que les 14 autres médecins doivent se répartir. Dans un autre cas, là, en Mauricie, j'en ai un autre qui perd un autre deux départs. Il y a un autre deux départs, trois avec quelqu'un qui avait déjà prévu partir. Mais donc, encore une fois, sur 22, trois départs, ça veut dire que ces patients-là vont devoir se trouver d'autres médecins, puis les médecins ils vont avoir une charge plus élevée de travail. Fait que, bref, ça crée des impacts réels dans le milieu. C'est pas que du bluff.
Et là, c'est une roue qui tourne dans le mauvais sens parce que plus il y a de médecins qui partent, plus il y a de clients orphelins, plus il y a de patients orphelins, plus les médecins, il faut qu'ils en fassent plus. S'ils ne sont pas capables d'en faire plus ou ne sont pas capables d'avoir d'autres médecins, ils n'atteindront pas les cibles de performance. Donc, ils ne tomberont pas dans le 23 %, ils vont tomber dans le 35 % de diminution de salaire. Francis me disait que les médecins étaient prêts à accepter un statu quo au niveau salarial, voire même une diminution de salaire entre 5 à 10 %. C'est pourquoi, justement, on demande au gouvernement de se rasseoir à la table. Sais-tu quoi, ça presse... le gouvernement veut faire trop vite dans le dossier. Mm-hmm. Normalement, cette nouvelle façon de calculer les salaires sera au 1er janvier. Faut que François Legault sorte cette semaine, dans la dernière semaine à l'Assemblée nationale. Ouais, et dise, hey, savez-vous quoi? On continue à négocier avec les médecins, puis on amène ça au 1er avril.
Mais les médecins veulent plus négocier, on veut tellement dire de choses en même temps. Les médecins veulent plus négocier. Ils sont tannés. Ils trouvent effectivement que ça aide en rien à ce qui se passe actuellement, mais tu n'auras pas le choix de mettre un frein à tout cela parce que, honnêtement, les cliniques ferment. Là. On a parlé de la clinique ici, en gynécologie, en suivi de grossesse, qui va fermer en mars et qui déjà fait en sorte de laisser des centaines de patientes sans suivi pour leur grossesse. Et ça, ce n'est que le début. J'ai entendu quelque chose en Chaudière-Appalaches aussi. Ce que tu dis, là, c'est pas aujourd'hui ni demain qu'il faut que François Legault arrête ça, c'était hier.
En plein ça. Alors, merci à Francis Veil, qui est chroniqueur pour le journal La Presse, de nous avoir dévoilé ces chiffres. Et oui, la détresse est réelle chez les médecins. Et oui, les baisses de salaire importantes sont également réelles. On en a la preuve depuis ce week-end. Pascal, on se fait quelque chose de le fun après la pause. Stéphane Turcot, journaliste de sport pour TVA, va venir s'asseoir avec nous. Imagine-toi donc, ça a fait 30 ans en fin de semaine que Patrick Roy a été échangé du Canadien de Montréal à l'Avalanche du Colorado. Un moment marquant dans l'histoire du hockey au Québec. On va faire justement le tour de cette transaction, cette très mauvaise transaction pour le Canadien de Montréal. Après cette courte pause à l'émission, on en jase. 13h11 exactement, vous êtes à l'émission On en jase. Je vous le répète, pour participer à l'émission 418-971-1021. D'ailleurs, vous avez participé en très grand nombre à notre concours Fromagerie Victoria. Merci d'être à l'écoute de l'émission On en jase sur Boulevard 102.1. On adore votre présence. BLVD.fm, c'est la web radio. Vous pouvez également retrouver les meilleurs moments. Le prochain invité, on va le mettre dans nos meilleurs moments parce que c'est toute qu'une histoire sportive. L'application Boulevard sur Google Play Store et Apple Store. Également, on est disponible sur twitch.tv/BLVD/FM. Pascal, tu me dis toujours, Jeff, j'aime ça quand tu me racontes le sport. J'aime ça quand tu me racontes des histoires. Et là, l'histoire qu'on va te raconter, moi et Stéphane Turcot de TVA Sport, c'est simple. Tu venais d'être au monde quand c'est arrivé.
Ça veut dire 94?
Ah, c'est arrivé en 95, imagine-toi donc. Stéphane Turcot qui est avec nous. Stéphane, merci d'être là.
Bien, merci de m'avoir invité.
Ça fait plaisir. Steph, avant que je fasse jouer le montage justement d'une minute 15 qui va nous mettre dans le bain, c'est un moment historique qu'on va parler de sport au Québec.
Ça avait marqué l'imaginaire, cette histoire-là. Ça a commencé avec le 2, la sortie de Patrick Roy contre Mario Tremblay et Ronald Corée. Et 4 jours plus tard, la transaction. Ça avait ébranlé les colonnes du temple.
Exactement. On se remet dans le bain avec le réalisateur de l'époque de la soirée du hockey à Radio-Canada, Jacques Primo, qui va nous expliquer justement comment il avait travaillé pour qu'on voit la fameuse image où Patrick Roy disait à Ronald Corée, c'était mon dernier match ici.
Il va d'un dégagement jusqu'en zone neutre, pris par Larionov, il l'abandonne pour Fiodorov, le tir de loin, Poulet bloqué par Roy. Et là, le geste de Roy. Tout à fait impardonnable.
Là, tu voyais réellement que Patrick, il en avait plein son casque, puis il était peut-être humilié d'une certaine façon. C'est genre, pourquoi tu me laisses ici, là? Sors-moi donc d'ici, là. C'est assez, là. 8e but, 9e but. Fait que là, tu voyais qu'il y avait un build-up qui se faisait. Quand finalement, il est sorti après le 9e but, là, c'est comme, on savait réellement qu'il était pour se passer quelque chose à ce banc-là. Je me rappelle le caméraman que je lui ai dit, reste sur Patrick, tu le lâches pas, tu le suis. À ce moment-là, il aurait mis la rondelle au jeu, puis je pense que je serais même pas allé pour la mise au jeu. Je serais resté sous ces images-là.
Parce que là, le coup d'œil qu'il a jeté à Roy en passant.
Il est arrivé là, puis là, il est passé en avant de Ronald Corée, ensuite Mario. Mais là, il y a eu un regard, là, Mario, puis un regard peut-être arrogant un peu.
Ouais, il est allé s'adresser au président
Corée. Mais Patrick, il s'est retourné, puis là, il est allé voir Ronald Corée, puis là, il a dit, c'est mon dernier match avec le Canadien. Puis il se retourne, puis là, il dit, t'as compris?
Oh! Ouf, j'en ai encore les frissons. On se remet dans le bain. C'est samedi 2 décembre, la soirée du hockey sur Radio-Canada. Et là, le Canadien se fait poivrer. Quand on entend les applaudissements dérisoires, c'est que c'est 7-1 à ce moment-là. Patrick Roy fait un arrêt d'un lancer au-delà de la ligne bleue et lève les bras au ciel pour...
répondre à la foule qui se moquait de lui.
Qui se moquait de lui. Et là, Mario Tremblay laisse dans le but. Puis à 9-1, c'est Patrick Roy qui dit « J'en ai assez, je pars par moi-même. » Et là, à l'époque, pas de baie vitrée derrière le banc. Le président de l'équipe toujours resté en arrière, Ronald Coré. Et c'est là que Patrick Roy se penche et lui dit « C'était mon dernier match ici. » Après avoir échangé un regard tueur avec Mario Tremblay, l'entraîneur de l'époque.
Ben, déjà, depuis quelque temps, il y avait comme une espèce de rivalité entre Roy et Tremblay. Tremblay venait d'arriver derrière. Parce que tout ça, ça remonte au congédiement de Serge Chavard, le directeur général, et Jacques Demers, quelques semaines auparavant.
En début d'année, 0 et 4 que le Canadien commence la saison. T'sais, si on refait le portrait, Coupe Stanley en 93 contre en battant les Nordiques en première ronde. Ça a fait mal. Lockout en 94.
Les Nordiques menaient 2-0 cette
saison. Je le sais. Lockout en 94-95. Et là, le Canadien ne fait pas les séries dans cette courte saison. Les Nordiques terminent au premier rang, mais sont éliminés par les Rangers. Nordiques déménagent au Colorado. Et là, on débute la saison 0 victoire, 80 en 95. Donc, Ronald Coré dit « Dehors, Serge Chavard, dehors, Jacques Demers qui l'a ramené à Coupe Stanley en 93. » Mais ils rentrent deux gars qui n'ont pas d'expérience. Réjean Houle comme DG et Mario Tremblay comme coach.
Je me rappellerai toujours de Réjean Tremblay qui avait dit à une radio à Montréal « Le bleu, OK, mais pinote! » En voulant dire qu'est-ce que Réjean Houle... Parce que Réjean Houle, c'était comme l'espèce de gars des affaires communautaires du Canadien de Montréal. Il n'avait pas un rôle hockey.
Non.
Et là, il se retrouve directeur-gérant de la plus prestigieuse équipe de la Ligue nationale de hockey. On se demandait s'il avait la capacité à répondre. Et dès l'arrivée de Tremblay, et ça avait choqué non seulement le public, mais ça avait choqué les joueurs, parce qu'on leur donnait pas beaucoup de crédibilité, autant à Houle qu'à Tremblay. Puis bon, Patrick Roy, c'est un coq. Mario Tremblay, c'est un coq. Fait que les deux coqs se retrouvaient dans la basse-cour. Puis Tremblay avait un but. Il voulait... Parce que Patrick Roy était omniprésent dans le vestiaire. Tu sais, on le disait souvent, l'entraîneur adjoint de Jacques Demers à l'époque, c'était pas les autres. Là. C'était pas Jacques Laperrière, c'était Patrick Roy. Patrick Roy qui décidait, tu devrais faire jouer un tel avec un tel, puis un tel avec un tel. Déjà, il y avait un minding coach en lui. Et Tremblay le savait très bien, puis voulait le casser. Il voulait le casser, puis il y avait une chicane entre les deux, puis là, c'est arrivé le 2 décembre, là, ça a explosé.
Ah, carrément explosé. Quand ça explose, Stéphane, tu te dis quoi? Moi, je me dis, hey, Patrick Roy, c'est l'image du Canadien de Montréal. C'est comme un peu quand Tom Brady est parti des Patriotes. Je peux te faire un comparatif, Pascal. Est-ce qu'ils vont recoller les morceaux? Ça n'a pas d'allure. Toi, tu disais, tu sais, fini à cause du tempérament bouillant de Patrick?
Ça se peut pas. Tu peux pas te départir de l'image du Canadien de Montréal, du gars qui a permis à l'équipe de gagner une autre Coupe Stanley en 93. Tu vas avoir réconciliation à quelque part. Mais c'était clair dans la tête du Canadien, il fallait l'échanger. Parce que avant Réjean Houle, Serge Chavard avait amorcé quelques pourparlers avec des équipes pour échanger Patrick Roy. Il n'est pas allé jusqu'à l'échanger, mais il était rendu peut-être à la croisée des chemins. Il se disait peut-être que ce serait la meilleure chose qu'on pourrait faire, aller chercher du bon jeune matériel pour échanger Patrick Roy. Mais Patrick Roy m'a déjà dit, 10 ans après la transaction, j'avais fait un reportage, j'ai dit, moi, je voulais rester à Montréal. Il y a un homme qui aurait pu régler tout ça, c'est Ronald Coré, qui aurait pu comme coller les pièces du casse-tête pour comme réconcilier tout le monde, mais jamais il s'est immiscé dans le travail de Réjean Houle. Il a laissé Réjean Houle faire son travail, puis il s'est fait avoir dans cette transaction-là de façon abominable.
L'enfer. Selon toi, est-ce que Ronald Coré pourra coller les morceaux justement parce qu'il s'était dit « Hey, j'ai tellement fait un choix critiqué de Mario Tremblay que Réjean Houle, faut que j'aille avec eux jusqu'à la fin? »
Je pense que c'est ça. C'est encore très frais, les nominations des deux hommes. Puis il disait « Faut que je leur laisse carte blanche. C'est à eux à opérer l'équipe, autant sur la glace qu'en gestion. » Puis c'est pour ça que c'est pas mêlé de l'histoire. Mais s'il avait parlé, s'il avait peut-être eu une rencontre, puis je sais que l'agent de... C'était Robert Sauvé, l'agent de Patrick Roy à l'époque, était prêt à rencontrer la direction, dire est-ce qu'on peut trouver un terrain d'entente là, pour continuer la saison? Parce que ça allait pas si mal que ça avec Mario Tremblay en termes de victoire. Je pense qu'il avait remporté 10 de ses 12 premiers matchs avec le Canadien, mais là, ils étaient sur une mauvaise séquence. Puis c'est là que ça a explosé entre Roy et Tremblay.
S'ensuit la transaction, Pascal. Patrick Roy, le meilleur gardien de but de l'histoire, qui en a encore dedans parce qu'il va nous le prouver au Colorado, est échangé avec le capitaine du Canadien, Mike Keane, en retour de deux attaquants quand même suspects qu'on avait connus à Québec, exactement. Martin Rosinski et André Kovalenko, tous deux gars de deuxième, troisième trio. Et le jeune Jocelyn Thibault. Repêché, tu devais être là, repêché, ouais, au Colisée, quand tout le monde scandait le Thibault. Moi aussi, j'étais dans les estrades. On a mis de la pression, pas à peu près, sur le kit de 19 ans.
Pauvre Jocelyn.
Ben, c'est ça.
C'est un gars tellement candide puis gentil, Jocelyn Thibault. Oh, il se retrouvait dans Fosse au Lyon. C'est ça, c'est une soie, Jocelyn Thibault. C'est sûr qu'il n'a jamais répondu aux appels à Montréal. Puis peu de temps après, il a été échangé aux Blackhawks de Chicago. Ça a été une transaction... La pire transaction, non seulement de l'histoire du Canadien, mais peut-être de la Ligue nationale de hockey.
Tellement.
Tu donnes Patrick Roy, Mike Keane, qui n'a pas été mauvais pour l'Avalanche du Colorado, contre deux suspects, comme tu dis. Rosinski avait un talent.
Oui.
C'était un buteur, mais il jouait quand ça y tentait.
C'est ça.
Kovalenko, lui, c'était le suspect, puis Thibault, trop jeune, trop vert pour comme assumer la pression à Montréal. Le Canadien, et puis non seulement le Canadien s'est fait avoir, ça, je me rappelle pas, c'est Jean Martineau qui m'avait raconté l'histoire. Pierre Lacroix a demandé, tu peux-tu nous envoyer Roy puis Keane le plus rapidement possible à Denver? Fait que là, Réjean Hall a dit, oui, il n'y a pas de problème, puis on va prendre le même appareil, puis on va ramener Kovalenko, Rosinski, puis tu vas à Montréal. Puis c'est le Canadien qui avait payé la facture. Fait que le Canadien a perdu la transaction, puis la transaction dans le transport.
Hey, pour vous montrer, André Kovalenko n'aura joué qu'une saison à Montréal. C'est la saison 95-96. Donc au moment où il est arrivé, il a fait 34 points, 51 matchs. Et par la suite, il a été échangé aux Oilers d'Edmonton. Sa meilleure saison en carrière, c'est 59 points. Non, c'est pas vrai, 68 son année recrue avec les Nordiques. C'est vrai, il nous avait impressionnés. Sinon, c'est 59 points. Et Martin Rosinski, lui, a duré plus longtemps à Montréal. Il a passé 8 saisons complètes, mais sa meilleure saison a été de 55 points. Donc, c'était vraiment pas des joueurs d'impact.
Tout à fait. Puis, petite anecdote, lorsque le Canadien décide d'échanger Patrick Roy, Patrick demeurait, sauf erreur, c'était à Blainville ou Rosemère. En tout cas, peu importe. Sa mère était agente immobilière, Barbara Miller. Puis lorsqu'elle a fait l'annonce sur la vente de la maison de Patrick, c'était marqué une vente urgente pour un déménagement inattendu à Denver. C'est comme ça qu'on annonçait la vente de la maison.
J'adore ça. Et là, Patrick Roy s'en vient avec nos anciens Nordiques parce que le déménagement est frais. C'est Pierre Lacroix, son ancien agent de joueur, justement, qui va le chercher à titre de directeur gérant de l'Avalanche du Colorado. Et s'ensuit pour l'Avalanche une série de succès parce que Patrick, en 1995... Il y en avait encore dedans. Et d'ailleurs, il n'y en avait pas juste dedans dans le filet, il y en avait dedans dans ses commentaires aussi. Je te fais écouter son fameux commentaire par rapport à Jeremy Roenick en séries éliminatoires 1995.
I can't really hear what Jeremy says because I got my two Stanley Cup rings plug in my ear. Then it's hard for me to understand what he says.
Patrick a amené cette confiance-là au Joe Sakic, au Peter Forsberg, au Mike Ritchie qui était présent à ce moment-là.
C'est tout ce qui manquait. C'était un gardien solide, un gardien de premier plan. Puis ils l'ont obtenu en Patrick Roy. Puis évidemment, Pierre Lacroix, lorsqu'il a vu la chicane à Montréal, s'est empressé d'appeler Réjean Hall et dire « Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse une transaction? » Ça a pris à peine 4 jours. Puis ça n'a pas été une longue négociation. Alors, tu voyais que l'expérience de Lacroix avait eu le dessus sur l'inexpérience de Réjean Hall. Puis oui, il a apporté cette aura-là à l'Avalanche du Colorado, la pièce manquante là, pour aller chercher les grands honneurs. Coupe Stanley en 96 et une autre un peu plus tard, au début des années 2000.
Exactement. Celle au début des années 2000, Pascal, c'était avec Raymond Bourque, le meilleur défenseur des Bruins de Boston qui avait été échangé à l'Avalanche du Colorado. Et dans le but de gagner une Coupe Stanley. Et l'Avalanche perdait 3-2 dans la série finale de la Coupe Stanley. Patrick Roy disait à Raymond Bourque, fais-toi-en pas, on s'en va chercher la Coupe Stanley, je te le promets. L'Avalanche a gagné les matchs 6 et 7. Patrick Roy a donné un but en 2 matchs. Okay. C'est phénoménal de le voir garder les fils en série, Patrick Roy. Il était bon en saison, mais en série, c'est simplement incroyable. 3 trophées qu'on est smite.
Martin Brodeur a battu à peu près tous les records là, en saison régulière de Patrick Roy pour le nombre de victoires, blanchissage, le nombre de parties jouées, blablabla. Mais en série, là, sauf erreur, c'est 152 victoires pour Patrick Roy. Puis celui qui vient deuxième, c'est justement Martin Brodeur, a peut-être 60 victoires derrière. Ce sont des statistiques, des chiffres qui en disent beaucoup. Quand venait le temps de performer, Patrick Roy était présent.
Mm-hmm. Pour terminer cet entretien avec toi, Stéphane Turcot, sur cette transaction majeure il y a 30 ans de Patrick Roy qui passe au Colorado. Si Patrick était resté à Montréal, on parlerait-tu encore du Canada qui est à la recherche de sa première Coupe Stanley depuis 1993?
Peut-être pas, parce que Roy disait souvent, puis des entrevues après la transaction, il dit on était à quelques joueurs près de performer puis de répéter ce qu'on avait fait en 93. Je pense que oui, le Canadien, parce que écoute, ça a été un désastre le Canada. Depuis 93, ça va peut-être un petit peu mieux.
Ouais, oui.
Mais depuis 93, là, c'est pas l'ombre de la dynastie que la population du Québec a connue. Et les malheurs ont commencé avec le départ de Patrick Roy.
Ah oui, bien juste, Pascal, pour bien te démontrer le succès de Patrick Roy, 86, c'est la Coupe Stanley. 89, le Canadien perd en finale de la Coupe Stanley. 93, il remporte la Coupe Stanley. 95, il est échangé. Et entre 1995 et 2009, 14 ans, le Canadien a gagné 4 rondes en série.
C'est fou. Puis combien de fois ont raté les séries? Pratiquement la moitié du temps.
Exactement. Donc, vraiment, c'est un retour sur cette transaction qui a fait basculer à tout jamais la concession du Canadien de Montréal. Et puis là, maintenant, mais Patrick, après deux beaux succès avec les Remparts de Québec, deux Coupes Memorial, se retrouve entraîneur des Islanders de New York. Qu'est-ce que tu as appris le plus dans tes années que tu as couvert les Remparts avec Patrick Roy comme coach? Qu'est-ce que tu as appris le plus sur lui?
C'est un gars qui était... Il y a eu le Patrick Roy avant l'avalanche du Colorado, où il n'y avait pas de filtre, puis il disait ce qu'il pensait. Puis écoute, les conférences de presse, les scrums du matin à l'entraînement, c'était du nanan. C'était... Tu sais, on arrivait là des fois, puis on n'avait pas d'histoire. Patrick Lawson, France, ça y est, on est parti pour la journée. Le Montréal t'appelle. Hey, tu peux-tu faire une converse avec moi à telle heure, tout ça?
Oh, ouais.
Après, tu as eu Patrick Roy un peu plus, je te dirais, réservé à son retour là, en 2018. Mais c'est un homme qui était très généreux en entrevue.
Ouais.
Vraiment généreux en entrevue. Et j'ai jamais vu et connu quelqu'un qui aimait autant le hockey que lui.
Mm.
Je me rappelle à son arrivée en 2003, après sa retraite, Québec recevait le tournoi de la Coupe Memorial. C'est Éric Lavigne qui était l'entraîneur. Patrick embarquait sur la patinoire pour donner conseil, mais Patrick, c'est lui qui dirigeait l'entraînement. C'était pas
c'est
Éric, c'était Patrick qui dirigeait l'entraînement.
Monsieur, je pense à un de tes reportages que j'avais écouté à la télé, qu'on voyait très bien. Patrick, à un moment donné, c'est Patrick qui parle aux joueurs, puis Éric Lavigne est en arrière.
C'est ça.
La tête baissée, je me disais que c'est beau, ça m'est coaché, lui-là.
À la fin de ce premier entraînement-là, il avait dit aux joueurs, retournez dans le vestiaire, tu sais, les petits gars vont à l'école, puis il fallait faire le petit dodo d'après-midi, puis ci, puis ça. À quatre pattes, Patrick Roy était dans le fond de la patinoire, puis ramassait les rondelles, mettait ça dans la chaudière. Là, j'étais là, j'ai dit, OK, 4 Coupes Stanley, 3 Conn Smythe, meilleur gardien de l'histoire. Pas d'affaire à faire ça, là.
Non, c'est ça.
En même temps, ça démontre...
C'est toute la passion.
La rigueur derrière l'homme, tu sais, parce que souvent, on le dépeint comme étant un sanguin, un ça, mais...
Il l'est, puis il reconnaît... Tu sais, il a fait des choses juniors qu'il ne referait pas aujourd'hui. Là, il apprend, mais tu sais, récemment encore avec les Islanders...
Mais il est impliqué.
C'est un passionné dans l'âme.
Vraiment un passionné dans l'âme. Tu parlais de récemment, là, justement, avec les Islanders. Je regarde, me semble que je l'avais
Scandalous.
Pas loin. Là.
Scandalous. Écoute, le match est à la télévision. Lui, il a, comme on dit en métier, il n'est pas mic'é, il n'y a pas de micro-cravate sur son veston. Mais juste avec les micros qui sont un peu partout dans l'amphithéâtre, et de la façon dont crie Patrick à Alain Astradine de l'autre côté, on l'entend clairement ce qu'il dit. Puis on l'entend parler en français, c'était de toute beauté. Puis c'est ça.
Ah non, c'est ça. Il est tout simplement exceptionnel. Merci Stéphane Turcot pour ce passage dans l'histoire sportive. On se reparle bientôt. Merci beaucoup d'être passé. Pascal, on va faire une courte pause. Par la suite, tu veux nous parler de guerre en Europe parce que on se le cachera pas. Avec la Russie, l'Ukraine, ce fameux plan de paix qui en sera peut-être pas un positif pour l'Ukraine. Il y a des craintes là, en Europe qu'au niveau des combats armés, ça se répercute sur d'autres territoires.
Ça fait des années qu'on le voit venir, veut pas, depuis 2022 avec l'invasion de la Russie en Ukraine. Il y a quelque chose qui se divise, puis ça se divise aussi au niveau économique depuis avant la pandémie.
Mm-hmm.
On voit une Chine, une Russie qui veut avoir un pouvoir économique, mais un pouvoir territorial aussi, puis certainement dans les valeurs. On a un combat de valeurs occidentales en ce moment, puis de valeurs peut-être plus autoritaires, de gouvernements qui sont différents de nous. Qui réussira à avoir la palme? Ça, on peut pas vraiment le savoir, puis comment est-ce que le monde va se dessiner? On peut appréhender sans être certain. Mais chose assuré en ce moment. Il y a une division et on voit les États-Unis se ranger beaucoup plus derrière une Russie parce que peut-être au niveau économique, c'est plus alléchant. Mais à quel moment on s'est dit les États-Unis vont choisir l'économie au-delà des valeurs? Ben, à un moment où dans le monde actuellement, ça se divise et qu'il y a des gros joueurs qui s'étaient tus pendant plusieurs années aux dépens de valeurs occidentales qui prennent de plus en plus de force. Puis en ce moment, tu as l'OTAN d'un bord, le Canada qui est de leur côté avec les autres pays européens, ouais, qui se sont rangés derrière l'Ukraine vu que c'est une invasion violente de la Russie sur le territoire ukrainien. Puis c'est pas quelque chose que dans nos valeurs occidentales, on respecte. Il y a des choses qui grouillent et dont on ne parle pas assez ici. Puis c'est ça, on va faire un tour après la courte pause.
Donc, on parle de tout ça et moi, je te ferai découvrir en terminant l'émission, pour terminer sur une note positive, la fabuleuse histoire des Hoosiers d'Indiana au football universitaire américain. Premier championnat depuis 1947 qu'ils ont acquis samedi dernier. Alors, on parle de ces deux histoires après cette courte pause à Boulevard 101, l'émission d'En Jase. On en jase jusqu'à 102.1. L'émission d'En Jase, son émission du midi sur Boulevard 102.1, précisément 13h38 minutes, moins 15 à la météo. Refroidissement éolien de moins 25. Oh, il fait froid. Moins 12 demain, moins 5 et moins 4 pour mercredi, jeudi, avec des possibilités de neige. Donc, préparez-vous. On va en pelleter une autre petite shot, mais c'est toujours mieux à moins 4 qu'à moins 25. Donc, félicitations à Geneviève qui remporte justement le panier cadeau chez Fromagerie Victoria avec son ingrédient pour son pâté à viande que... Je ne dirai pas Geneviève parce que tu nous as dit « Chut, c'est un secret! » Faut garder le secret pour Geneviève. T'es d'accord avec ça, Pascal?
Moi, je l'aurais dit. Je l'aurais dit parce que je trouve que c'est un partage intéressant. Moi, j'ai pris une note là-dessus. Ah, je veux tenter d'en mettre de la mélasse dans mon prochain pâté à viande.
Ouais, c'est vrai que c'est bon de la mélasse. T'as raison. Excellent, good! Ouais, on l'a pas dit. On a juste dit que la mélasse était bon. Mélasse, mélasse. OK. Cessons les foleries parce qu'on va parler sérieusement et sérieusement de ce conflit qui ne finit plus de se terminer entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est à croire que la Russie fait exprès pas que ça se termine parce qu'on n'arrête pas de gagner du terrain en attendant que les négociations, et là je le mets en très gros guillemets, de paix, parce qu'on s'entend que la Russie va frapper l'Ukraine. Là, je suis convaincu de ça après quelques années. Et là, bien, ça grouille beaucoup dans le monde européen parce que un allié fidèle de longue date, les États-Unis, ont tendance à pencher plus pour des régimes comme la Russie et la Chine à l'heure actuelle.
Étrangement, tu sais, en guerre froide, on n'aurait jamais pensé que les États-Unis allaient s'allier de cette manière-là avec les Russes. On parle d'alliance parce qu'on parle aussi de discussions économiques très fortes et façon aussi d'appuyer la Russie dans cette trêve-là ou cette paix-là, qui n'en est pas nécessairement une, parce que plusieurs experts depuis plusieurs semaines le disent, si on laisse Vladimir Poutine sans responsabilité de ce qu'il a fait en février 2022, soit d'envahir l'Ukraine avec ses troupes, bien, ça va lui donner le pouvoir de peut-être refaire ces choses-là puis continuer sa genre de vengeance. Hein, parce que lui, là, il n'a jamais pris le fait d'avoir perdu du territoire. Il n'a jamais pris aussi la défaite mondiale qui lui a été lancée sur les épaules.
Objectif URSS, c'est aussi clair que ça.
Aussi clair que ça. Pour lui, c'est d'aller rétablir la fierté de son peuple et de son pays. Après les critiques de Trump, il y a eu des Européens qui ont affiché leur solidarité envers Zelensky, Volodymyr Zelensky, qui est à la tête de l'Ukraine. Et là, tu vois vraiment une dissociation, du moins une découpe mondiale qui est très importante dans le conflit que l'on connaît. Pourquoi? Parce que c'est une division aussi en termes d'idéologie. Les États-Unis, on voit dans la politique de Donald Trump que sa priorité, c'est l'économie. Ce n'est qu'économique. Alors, comment est-ce qu'on va réussir à aller faire en sorte qu'on reste une puissance mondiale économique, sinon la puissance mondiale économique, et qu'on se remplisse les poches en tant que pays?
Exactement. C'est transactionnel la façon que Donald Trump fait ses affaires. Puis on n'a qu'à regarder avec des pays, exemple, comme l'Arabie saoudite, qui sont contre le droit des femmes. Bien, lui, il s'en va s'asseoir avec eux, fait des transactions de pétrole, et ça ne lui dérange pas. Il n'y a pas cette conscience-là, ces valeurs-là qui prime au-delà, justement, de comment je peux faire de l'argent.
C'est pas une politique d'éthique et de morale. Assurément, c'est ce qu'on commence à constater. Et ça va amener des problématiques parce que à qui tu veux donner du droit mondial? Je dis ça dans la responsabilité de chacun des pays. Est-ce que nous, en tant qu'Occidentaux, on peut commencer à s'asseoir en disant nous avons les meilleures valeurs morales et éthiques? On peut en être convaincu, mais est-ce que c'est à nous de prendre un peu le contrôle du monde?
Exactement.
C'est ce qui a souvent été entre nos mains en tant qu'Occidentaux, en tant que valeurs démocratiques et tout ça.
En tant que pays de l'OTAN, justement, des pays démocratiques. Et puis pour ceux qui disent, ouais, mais hey, Donald Trump, là, il fait, bon, il gère sa fougère, son territoire, toute l'équipe. Non, parce que ça, Pascal, si je ne me trompe pas, ça va laisser de la place à la Russie, ça va laisser de la place à la Chine. Ça laisse de la place à des régimes communistes de prendre de plus en plus de place sur le globe. On n'a qu'à penser en Afrique et d'avoir une influence encore plus forte sur l'économie mondiale.
Juste dans tout ce qu'on a parlé, ça pourrait me faire 75 chroniques. Tu sais que je suis un peu passionnée de ça parce que j'essaie de voir les coups venir. Puis l'Europe est très penchée sur l'actualité internationale, ce que nous, on ne fait pas. Mm-hmm. Peut-être parce que, justement, ils ont beaucoup plus à surveiller sur un territoire commun et partagé, si tu prends l'Europe en tant que telle. Mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même eu un genre de devoir moral et éthique qui avait eu priorité sur ce genre de non-démocratie-là de la Russie, de la Chine, et puis ce qu'on a vu, ce qui s'est passé en Allemagne. En ce moment, du côté de l'Europe, on jase énormément, on se pratique et on se prépare activement à d'éventuels conflits qu'on n'a pas vus dans certains pays depuis des années. Même que c'est la tension qui existe et qui coexiste avec la Russie qui fait augmenter un genre de rumeur comme quoi plusieurs dirigeants, dont le ministre allemand de la Défense, qui appellent à être prêts pour la guerre et on met une date en 2029. Après.
OK. Pourquoi 2029?
Pour le temps que ça va prendre dans l'opinion publique, le temps que ça va prendre à se préparer, puis certainement, le fait que tout le monde est un peu sur le qui-vive, certains ont de l'arme nucléaire, d'autres non. Il y a aussi beaucoup d'économies là-dedans. Tu l'as vu au moment où la Russie a envahi l'Ukraine, il y a eu même des coupes au niveau alimentaire. Dans la farine, dans le blé, il a fallu se réapprovisionner ailleurs, même diversifier notre agriculture. Écoute, en France, on avait de la misère à faire nos croissants. Il a fallu revoir où est-ce qu'on va s'approvisionner en termes de culture. Puis quand on parle de croissance, ça peut sembler stupide, mais c'est quand même une des matières premières de l'économie française. Chose certaine, la menace russe est perçue. On est convaincu qu'il y en a une et en plus, on n'a pas de sanctions par rapport à ce qu'ils ont fait il y a quelques années et tous les impacts majeurs qu'ils ont eus. On croyait que l'armée russe allait être plus forte que ce qu'ils nous ont démontré sur le terrain.
En effet.
Le fait qu'on ait eu des drones ukrainiens qui ont été capables d'aller directement dans Moscou nous a évoqué à quel point on n'était pas nécessairement prêts. Cependant, ils possèdent l'arme nucléaire. Ils surfent beaucoup là-dessus, peut-être trop.
Ouais.
Si on avait à se réajuster et on avait le ministre de la Défense russe devant nous, c'est sûr que ce serait dans les discussions.
Exactement. Et d'ailleurs, la France a l'arme nucléaire et veut en produire davantage justement pour se protéger d'une éventuelle attaque russe.
Énormément de pays souhaitent maintenant se tourner vers l'arme nucléaire. Pas pour l'utiliser, mais pour avoir un droit de discussion en se disant « Parfait, vous n'avez pas maintenant la force de Dieu, tiens, disons-le comme ça, qui est l'arme nucléaire. Nous aussi, on l'a, donc maintenant, vous allez vous asseoir puis on va parler d'égal à égal. Il n'y aura pas cette menace nucléaire-là sur notre tête parce que nous aussi, on va l'avoir prochainement. » La capacité de défense, beaucoup d'Européens, 69 % d'entre eux, selon un sondage fin 2025, maintenant, estiment que leur pays n'est pas prêt à se défendre militairement contre une agression russe par l'arme nucléaire. Elle fait encore beaucoup peur. Changement d'état d'esprit aussi. Il y a le secrétaire général de l'OTAN qui s'appelle Mark Rutte qui a appelé à un état d'esprit de temps de guerre. Ça, ça veut dire retour à la conscription dans certains pays en 2025. Je te nomme les pays actuellement qui ont eu cette façon-là de discuter. Conscription dans plusieurs pays en ce moment. On a réinstauré le service militaire obligatoire en France, en Angleterre, en Suède, en Finlande, en Norvège et encore.
Donc, tous des pays européens, tous des pays scandinaves, tous des pays proches de la frontière de la Russie.
Alors, on met en place des plans de mesures d'urgence. On n'est plus juste dans comment est-ce qu'on se protège dans l'éventualité. On est en mesure d'urgence. Personne ne parle de ça ici ou très peu. Le Canada est membre de l'OTAN, vous le savez. Si ça pète de l'autre côté, comment est-ce que nous, on va être impliqués? Hein? Est-ce que notre fidélité et notre façon d'avoir joué avec les États-Unis depuis Mathusalem est encore fiable? Bien, on a des questions questionnement à se poser avec Donald Trump et sa façon plus économique et non morale d'ajuster les choses. Jusqu'à maintenant, on n'a pas fait grand-chose. Je suis allée retourner dans mes archives, hein, parce que moi, j'aime ça, puis je me fais même des petites affaires comme ça. Juillet 2022.
Oui.
La ministre canadienne de la Défense, qui s'appelait et s'appelle toujours Anita Hannon, a déclaré que le gouvernement fédéral allait investir près de 5 milliards de dollars canadiens au cours des 6 prochaines années pour moderniser NORAD. Ça, c'est l'Organisation conjointe de défense nord-américaine Canada-États-Unis. On a achoppé pour beaucoup, mais on avait une enveloppe budgétaire qui allait dépenser et qui est encore dépensée au cours des 20 prochaines années. L'annonce avait été faite en juillet 2022, donc quelques mois après l'invasion Russie-Ukraine. Déjà, on commençait à se dire « Oh, OK, va falloir travailler en amont le plus possible si on est capable. » On a aussi travaillé très fort et il y a eu certaines annonces qui passent dans le beurre actuellement. Le Canada envoie un message assez clair par rapport au Nord, avec notre Nord fort et libre. Donc, on se réapproprie le Nord. On a énormément de travail à faire là-dessus, mais on va avoir beaucoup d'améliorations, notamment des nouvelles bases, un radar transhorizon, une flotte de nouveaux brise-glace. Ça vous dit quelque chose, ça?
Oui, la dévie, exactement.
Pour patrouiller nos eaux. Il faut savoir que dans le Grand Nord, c'est un peu archaïque, tu mets un drapeau de conquérant, un autre pays arrive, remet un drapeau de conquérant, puis finalement, le territoire, on ne sait jamais à qui vraiment il appartient, mais il faut avoir une présence, pas juste avec des Rangers puis qui sont assis sur une roche avec un fusil. C'est une déclaration de souveraineté aussi audacieuse pour le Grand Nord qui va demeurer pleinement canadien le plus possible. Il nous appartient, en plus d'avoir énormément de ressources. Donc, d'avoir un investissement de milliards de dollars pour fortifier les frontières arctiques en ce moment, ça démontre à quel point on prend la chose aussi au sérieux.
Oui, parce que si on trouve que la Russie est loin, elle n'est pas très loin du Grand Nord canadien.
Pas du tout. Puis elle est convoitée, pas juste par la Russie, mais par également la Chine, etc. On possède ici au Canada plusieurs ressources naturelles pour plusieurs économies. Et c'est quoi le mot d'ordre pour la Russie, la Chine, etc.? Mm-hmm. C'est l'économie.
Oui.
Donc, on devient une cible. On devient aussi une cible parce qu'on s'est allié avec l'Ukraine. Et ça, on est capable de le voir. Tu sais, je veux dire, l'OTAN, l'Ukraine et tout ça, le Canada, on travaille ensemble pour avoir manifestement une priorité sur les valeurs et pas nécessairement juste l'économie.
Tu fais bien de le dire parce que c'est un combat idéologique avant tout qu'un pays comme la Russie décide d'envahir un pays démocratique comme l'Ukraine. Et cela dit, cette démocratie-là a eu certaines ratées, de la corruption, mais ça reste quand même un régime démocratique. C'est une guerre idéologique qui se produit et territoriale, mais très idéologique pour les Européens et le Canada. Moins idéologique maintenant pour les États-Unis. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui fait en sorte que c'est chambranlant présentement dans la défense de l'Ukraine.
Puis les États-Unis voient l'économie comme une priorité. Chacun sa façon de voir les choses. Nous, on voit une priorité dans le fait de ne pas laisser des pays qui n'ont pas la même façon politique de voir les choses, de prendre du terrain et donc de devenir plus fort, parce qu'après ça, on se demande quelle est la limite si déjà tu n'as pas les valeurs morales et éthiques que nous, on a. Le Canada vient d'acheter des milliers de bombes et de missiles aux États-Unis pour une valeur de presque de 4 milliards de dollars canadiens. Ça parle énormément, parce que nous, on avait un laxisme au niveau de tout ce qui est un petit peu plus perfectionné dans l'armement. On était en manque, puis là, on est allé en acheter au niveau des États-Unis. Ça contribue, veut pas, à améliorer la capacité militaire en étant allié de l'OTAN. Donc, on a amélioré la capacité de défense plus crédible là, au Canada.
Exactement.
On veut peut-être dissuader des pays qui nous voyaient comme pas très forts à chapeauter puis à s'appuyer sur les États-Unis comme étant un petit peu plus, indépendants au niveau de l'armement.
Oui, puis dans la stratégie Mark Carney aussi, on voit qu'il fait beaucoup d'affaires avec les Européens. Il faut augmenter notre capacité militaire.
Oui.
Si à un certain moment, on décide d'aller dans des conflits en Europe et que les États-Unis n'y vont pas.
Mm-hmm. L'autre recherche que j'ai faite puis que j'ai parfumé ce petit dossier-là, puis là, je ne veux pas faire peur à personne, mais je suis allée voir c'est quoi nos vulnérabilités, nous, au Canada face à la Russie. Principalement, bon, dans l'Arctique, c'est sûr, militaire, ressources, je vous en ai parlé. L'autre, c'est les cyberattaques. Donc, les infrastructures qui sont critiques. Pensez à SAQ Click. Juste au Québec, on a de la misère avec ça. Pensez à la GRC qui s'est vue refuser de continuer d'utiliser certains drones et équipements chinois et même que maintenant, c'est sur des listes proscrites. On n'a plus le droit de faire affaire. Mais combien d'années la GRC a réussi à utiliser le matériel technologique chinois, même aux abords des frontières? Ben, c'est plusieurs. Quels sont les dommages? On n'aura pas tout de suite le mot.
Quelles sont les données qui nous ont été subtilisées? On ne le sait pas.
Pression économique, et ou d'influence, là, qui sont aussi aggravées par les tensions géopolitiques en ce moment suite à l'invasion de l'Ukraine. Le Canada est un fervent soutien là, de l'Ukraine. On est là, on est dans le viseur de Moscou comme étant sur la liste des pays hostiles. On a été noté dans cette liste-là qui appartient à la Russie et qui est potentiellement quand même importante au niveau de l'impact. Si je te parle des menaces géopolitiques puis militaires, ben c'est, comme je te l'ai dit, le Nord canadien, le soutien à l'Ukraine, les menaces cybernétiques qu'on appelle les économiques, ben pour les cyberattaques.
Oui.
Hein, on s'entend, là, on est très stratégique au niveau de la Russie à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça ferait si on était visé au niveau d'Internet, de l'énergie, du transport? Il faut promouvoir une vision autoritaire d'Internet ici dans notre pays aussi. Les sanctions, les contre-mesures, les sanctions canadiennes contre la Russie, bien, ça peut avoir des effets réciproques aussi dans le secteur nucléaire. Puis les entreprises canadiennes comme Uranium One, ils ont des liens avec des entités russes. Ça peut-tu jouer sur notre économie? Puis quand on parle de désinformation, puis qu'on chiale sur les médias, il nous faut quand même être très, très, très strict sur la façon dont on est capable d'avoir notre source fiable médiatique, parce qu'on a une vulnérabilité assez potentielle, là, qui est une hypothèse en ce moment, là-dessus, parce qu'il ne va pas falloir avoir de l'ingérence, d'ailleurs, pour des élections, entre autres.
Exactement, fameuse ingérence au niveau des élections qui se passent avec les médias sociaux, les fameux algorithmes où on est capable, d'autres pays, de venir faire en sorte que dans mon algorithme, bien, je vais avoir un certain type d'information qui va faire en sorte que je vais être plus attiré à voter pour tel candidat au lieu d'un autre. Et là, ben, c'est ce qui fait en sorte que des pays comme la Russie et la Chine peuvent s'en sortir.
Puis, il faut être aux aguets parce que quand on voit une conscription, par exemple, qui est volontaire venir en France, mais qui est énormément discuté puis qui est encouragé, ben on voit où est-ce qu'on s'en va aussi. Puis il y a des drones qui ont survolé une base de sous-marins nucléaires stratégiques française dernièrement. Donc, on voit que ces gens-là, peut-être la Russie, peut-être la Chine, peut-être les États-Unis, cherchent à avoir beaucoup d'informations.
Alors, à suivre, évidemment, c'est il y a des rencontres importantes présentement entre l'Ukraine, entre Moscou, entre les États-Unis pour le plan de paix en Ukraine. Moi, ce qui me rend très perplexe face à ce plan de paix-là, c'est que l'Europe n'est pas impliquée à l'heure actuelle, alors que cette guerre se passe sur le territoire européen. Donc, Donald Trump qui les a pas mal tassé dans un coin et exclu. J'ai bien hâte de voir les ressacs de ce plan de paix-là. Si plan de paix, il y a Pascal Sévé, c'était très intéressant comme conversation. Merci beaucoup.
J'ai adoré. Plaisir.
J'ai adoré ceci. C'est le retour de Gravel qui suit à l'instant même. 16h30, manquez pas la chronique avec Francis Gosselin. On va revenir, il y avait des excellents textes justement cette fin de semaine dans le Journal de Québec concernant votre retraite, vos revenus que vous allez avoir à votre retraite. Et puis tout ce qui va s'en suivre, alors ça va être très intéressant.
Vas-tu, petit clin d'œil, on fermait l'émission, on terminait l'émission. Je viens de recevoir un communiqué comme quoi le Canada et l'Union européenne vont approfondir leur collaboration en matière d'intelligence artificielle.
Alors c'est une bonne nouvelle, honnêtement, il faut se protéger de plus en plus et il faut être un maître également de nos centres de données. Le retour de Gravel suit à l'instant même. Nous, on se parle demain à midi, Pascal.
Sans faute.
Yes, salut, passez une belle après-midi sur les ondes de Boulevard.